Ok, merci. Donc on passe à la troisième séquence de cette journée qu'on a appelée réorganisation avec un S. Avec Thierry d'abord qui va nous camper le décor du centre-ouest autour de Louis XIV. C'est un peu différent. Alors il nous réserve une surprise. Thierry réserve toujours une surprise. C'est encore le cas aujourd'hui. Ensuite, Gilles Kerr, en l'absence de Jérémy Colom, que l'on excuse, donc lui est conforme au titre qui est sur le programme, les enjeux pour l'économie sociale et solidaire. Et enfin, Serge abordera le thème de l'articulation entre les configurations territoriales et les politiques de santé. On en a un peu parler ce matin, articulation ou non-articulation, on verra. Et puis, donc, la dernière partie, eh bien, il y aura Olivier et Jérôme, qui sont tous les deux là, qui, dans ce débat qu'on pourrait appeler déjà conclusif, qui peut-être prolongera les réflexions de Pascal sur mode ou modèle de management public pour cette grande région. Et enfin, Pascal conclura. Eh bien, Thierry, à toi.
Merci beaucoup, Dominique. Donc, contrairement à ce que j'avais annoncé dans un premier temps, il y a déjà quelques temps, j'ai un peu et même beaucoup infléchi le thème de ma présentation, puisque je vais parler de politique maritime et de territoire d'intervention des politiques maritimes. Et j'ai étendu finalement le territoire que j'entends prendre en compte au littoral de la Nouvelle-Aquitaine actuelle. Et je vais même utiliser alternativement le terme de Midi Atlantique pour évoquer les littoraux dont je vais vous parler. Alors, c'est une question qui est récurrente dans la manière dont j'envisage les recherches, et notamment dans le cadre d'un groupe d'intérêt scientifique qui s'intitule Histoire et sciences de la mer. Et je profite d'avoir le micro pour dire qu'au mois de novembre prochain, nous accueillerons ici à Poitiers le troisième colloque international de ce réseau, et que parmi les quatre thèmes qui ont été inscrits à la politique scientifique de ce colloque, il y aura un thème sur la territorialité et puis les conflits. Voilà. Donc cette présentation que je fais aujourd'hui, finalement, s'inscrit un petit peu dans la préparation de cet événement qui va accueillir un grand nombre de chercheurs français et internationaux sur le thème de l'histoire maritime et du littoral. Alors, ce qu'il faut commencer par dire, c'est que l'idée m'est venue tout simplement de traiter de la question du littoral de la Nouvelle-Aquitaine, parce que lorsqu'il s'est agi de trouver un nouveau nom pour l'entité territoriale, on a confié la présidence de la commission à une historienne du fait maritime, quelqu'un qui est également spécialiste d'histoire moderne. C'est Madame Josette Pontet, donc qui était en poste à l'université de Bordeaux et qui était qui est une spécialiste de l'histoire de la ville de Bayonne, dont elle est originaire, et de ses relations avec la mer. Alors, ça campe le décor finalement d'une histoire qui, pendant longtemps, a été une histoire de ville portuaire. On va beaucoup parler de ville portuaire, mais il ne faudrait pas oublier que sur ce littoral du Midi Atlantique, il y a eu également des rôles importants qui ont été joués par des zones rurales. Et c'est un peu donc ce balancement entre littoraux ruraux et pôles finalement portuaires que je voudrais examiner avec vous à travers les différentes phases de la politique, de l'intervention de l'État sur le littoral. Alors, je suis un peu ennuyé parce que ce littoral de la Nouvelle-Aquitaine, il se prête très mal finalement à la projection PowerPoint, parce qu'il a une géographie en format portrait et pas en format paysage. Et donc, tout simplement, je me suis, vous le voyez sur ma diapositive d'introduction, hein, je vais me tenir à ce format, à ce format de projection. J'ai aussi prévu un PDF en contrepoint, si jamais les cartes n'étaient pas lisibles, on pourra aller zapper de l'autre côté. Alors, mon idée, c'est d'essayer de voir ce que révèlent les évolutions des territoires d'intervention de la politique maritime d'Ancien Régime. Donc, on va essayer d'aller du XVIe au XVIIIe siècle. Et j'ai identifié quatre temps sur le littoral du Midi Atlantique, avec, dans un premier temps, au XVIe siècle, un État royal qui, finalement, est assez éloigné des choses de la mer, et qui, on va le voir, a tendance à externaliser sa politique maritime, au moins dans le Midi Atlantique, du côté d'une ville, qui est la ville de La Rochelle. Et on va voir de quelle manière, donc, les choses vont se dérouler. Et puis, il y a deux temps finalement dans la reprise en main par l'État. Un premier temps à l'époque de Richelieu et c'est prolongé par Mazarin. Donc là, on est dans la première moitié du XVIIe siècle. Il y a une poussée en quelque sorte de la monarchie et on l'a vu ce matin autour de la question de Poitiers. C'est également lié à la montée en puissance de la monarchie absolue. Et puis il y a vraiment un moment fondateur qui est le règne de Louis XIV. Ce qui va encore m'attirer à l'intérieur du groupe des spécialistes du territoire, le qualificatif de Louis XIV idolâtre, puisque c'est un petit peu comme ça qu'on me voit parmi les collègues. Et puis je parlerai du XVIIIe siècle, et le XVIIIe siècle c'est une période assez passionnante en ce qui concerne ces politiques maritimes, parce que sans que l'État ne l'ait jamais vraiment cherché, sans que les politiques qui étaient menées n'aient eu pour objectif d'arriver à un tel résultat, on s'aperçoit que le littoral du Midi-Atlantique va être écrasé par la puissance de Bordeaux, qui est là. C'est le passage de relais entre, quelque sorte, entre le politique et l'économique. C'est parce que Bordeaux devient le premier port de commerce français, l'un des tout premiers européens, que dans le quart sud-ouest du royaume de France, eh bien, c'est cette ville-là qui va concentrer un ensemble de pouvoirs et qui va en quelque sorte piloter la politique maritime. Alors, je vous propose donc cette première vision donc, de notre Midi-Atlantique que j'ai qualifié en faisant un clin d'œil un peu amical à ce qu'a pu écrire Alain Corbin, le territoire du vide politique, puisque au XVIe siècle, en réalité, on s'aperçoit que la monarchie est assez éloignée de la question maritime. Lorsqu'elle est présente, c'est par le biais d'une institution qui est assez voisine du présidial qui vous a été présenté ce matin par Fabrice Vigier, c'est-à-dire une institution à la fois avec des pouvoirs réglementaires et judiciaires, et on appelle ça l'amirauté. Donc c'est une institution d'ancien régime peuplée d'officiers qui achètent leurs charges, qui peuvent éventuellement la transmettre. Et d'amirauté, dans le sud-ouest, en réalité, depuis le Moyen-Âge, il y en a une. C'est l'amirauté de Guyenne et ce sont les ducs-rois d'Angleterre qui l'ont fondée. Et puis, en relation avec ce siège donc, qui est installé à Bordeaux, ils ont également fondé le siège de Bayonne à l'extrême fin du Moyen-Âge. Et vous le voyez, donc, ce sont deux villes qui s'illustrent par une animation économique autour du commerce, qui est plutôt un commerce de cabotage européen, hein, autour de produits qui sont les produits de la vigne, essentiellement. Et puis, elles sont aux avant-postes, dès le début du XVIe siècle, ces deux villes, dans l'exploitation des Outre-mer et notamment des bancs de Terre-Neuve. Et on y arme donc des expéditions de pêche à la morue. Le royaume de France, lui, en tant que tel, il est présent sur le littoral qui nous intéresse, du côté de Luçon, qui est donc le siège d'un diocèse, et qui va accueillir à une date indéterminée, qui reste à documenter, un siège particulier d'amirauté, mais dépendant de l'amirauté de France, donc de ce qu'on appelle la table de marbre, c'est-à-dire l'amiral situé auprès de la cour de France à Paris. Donc vous voyez, on a deux obédiences, en quelque sorte, deux régimes politiques qui vont se projeter sur le littoral, avec des objectifs qui sont les mêmes, hein, taxer le trafic maritime, et puis encadrer l'activité des corsaires. Parce que c'est une grosse partie du travail des amirautés à cette époque-là, que finalement de pallier les manques de la monarchie, qui ne dispose pas de flotte au XVIe siècle, hein, ou très peu, qui fait appel à des mercenaires, notamment génois en Méditerranée, et qui va se retourner vers des ports de commerce, en incitant les négociants à armer des navires en course et à faire la guerre au nom du roi, ce que font la plupart des ports du littoral. Alors d'autres ports donc s'illustrent également sur ce littoral sans accueillir à l'époque d'institutions maritimes particulières. Ce sont les Sables d'Olonne déjà, hein, qui arment pour la pêche à la morue et le commerce. C'est également un ensemble indéterminé avec une grappe de petits ports autour de la Seudre et de Brouage ici. Et puis vous voyez que ces ressorts d'amirauté, et puis il y a Saint-Jean-de-Luz bien sûr à ne pas oublier, hein, qui arme aussi pour la pêche à la morue. Et finalement, c'est l'ensemble de ce maillage portuaire. Il va se retrouver dominé au début des guerres de religion par un point d'appui que le futur roi de France, alors chef du parti protestant, hein, qui est Henri de Navarre, et qui est également duc d'Aquitaine, eh bien, amiral de Guyenne, pardon, il va installer un siège d'amirauté à La Rochelle. Il n'y en avait pas jusqu'à présent. Donc un siège d'amirauté détaché de celui de Guyenne, on est en 1569, et ça va permettre à La Rochelle un décollage au-delà de la question du commerce et de la grande pêche à la morue, mais La Rochelle va devenir le port de guerre des Français, du Royaume de France, sur l'Atlantique, à tel point d'ailleurs que nos ennemis de l'époque, qui sont les Habsbourg d'Espagne, dans leurs archives, Ils confondent allègrement lorsqu'il s'agit de guerre contre les Français dans les colonies ou sur mer, le terme de Français et le terme de Rochelais. C'est-à-dire que pour eux, à la fin du XVIe siècle, un Français est un Rochelais et la réciproque est vraie sur mer. Donc là, on a véritablement un reclassement, une promotion de cette ville de La Rochelle, de ce port de La Rochelle. Et vous le voyez avec des institutions qui ont des ressorts, là, dont j'ai mis les limites, puisque en fait, elles disent le droit et elles encadrent l'activité maritime sur des portions du littoral. C'est donc du linéaire côtier. Donc pour ce qui est de l'amirauté de Luçon, c'est la presqu'île de Boin, l'estuaire de la Sèvre niortaise. Pour ce qui est de l'amirauté fraîchement créée de La Rochelle en 1569, c'est la Sèvre niortaise, l'estuaire de la Gironde, et ça s'arrête là où le petit ruisseau de Vitrezé vient de se jeter dans la Gironde. C'est l'actuelle limite entre la Charente-Maritime et la Gironde à l'heure actuelle, les deux départements. Pour ce qui est de Bordeaux, donc, c'est l'ensemble du linéaire côtier de la rive sud de l'estuaire jusqu'à la frontière entre Cazaux et Biscarrosse. Et puis pour ce qui est de Bayonne, ce sont les pays basques et l'embouchure de la Dour. Les compétences de ces amirautés remontent également dans les estuaires des fleuves, qui servent de frontière entre les différents ressorts. Les ordonnances disent jusqu'où la salure des eaux se fait sentir. Mais en réalité, ça va être source de contestations infinies entre les juridictions civiles, dont on a parlé ce matin, et puis les amirautés. Je vous ai signalé sur la base de petites étoiles vertes les bornes de ces ressorts sur les fleuves, Cognac sur la Charente, Maran sur la Sèvre niortaise, Libourne et Langon sur les deux affluents, enfin sur la Garonne et sur la Dordogne. Et quant à la Dour, je n'ai pas trouvé d'informations précises sur la limite du ressort. Alors, évidemment, on a donc une politique maritime, et surtout navale en fait. Elle est essentiellement navale, cette politique, c'est-à-dire c'est la guerre sur mer que l'État cherche à promouvoir, qui est totalement confiée à un port, donc La Rochelle. Et vous le savez, ça va être particulièrement insupportable au moment où Louis XIII donc, prend le pouvoir, et surtout au moment où Richelieu, dans les années 1620, se rapproche de lui, pour des raisons évidemment bien connues, qui sont des raisons confessionnelles, mais qui, pour d'autres raisons qui sont moins bien connues, c'est que Richelieu va avoir comme projet d'arracher à La Rochelle, finalement, le monopole que cette ville pouvait avoir sur la politique atlantique du Royaume de France. Alors, c'est un des moteurs principaux, à côté de la question confessionnelle, du siège de La Rochelle, 1627-1628, siège de La Rochelle qui va finalement aboutir, vous le savez, non seulement à la division de la population par quatre, mais également au fait qu'on va extirper de La Rochelle l'hérésie, et puis on va mettre fin au régime particulier que La Rochelle n'était pas la seule d'ailleurs à avoir, qui était un régime de place de sûreté au terme de l'édit de Nantes. Et donc, à côté donc de ce mouvement en quelque sorte qui consiste à arracher à La Rochelle son leadership sur la politique navale et maritime du Royaume de France, vous voyez que la monarchie française s'emploie également à réorganiser en quelque sorte son maillage administratif en transférant au Sable d'Olonne le siège qui autrefois était situé à Luçon. Donc, et là, très clairement, c'est l'influence à la fois de la politique mais aussi de l'environnement. Luçon s'est éloigné du trait de côte, on a poldérisé, il y a un envasement rapide, et donc il n'y a plus vraiment il est plus vraiment légitime de conserver donc une institution telle que celle de l'amirauté. Alors, le transfert du siège est bien daté, 1631. C'est certainement en lien avec toute la réorganisation des institutions suite au siège de La Rochelle, transfert de l'évêché depuis Maizé jusqu'à La Rochelle, enfin bon, il y a quantité de choses autour de ça, et surtout création d'un siège d'amirauté à Brouage, et là c'était même antérieur au siège de La Rochelle, puisque c'était sous Henri III dans les derniers épisodes des guerres de religion. Donc on se retrouve désormais avec 5 sièges d'amirauté dans le Midi-Atlantique, avec des ressorts donc qui sont bien fixés. Le nouveau siège, celui de Brouage, étant venu finalement soustraire à celui de La Rochelle une partie du littoral, la fameuse Saintonge, dont on me dit spécialiste, va avoir sa capitale maritime avec la présence donc des officiers d'amirauté à Brouage. Pour reprendre ce que disait Fabrice Vigier ce matin, Brouage est également le siège d'un gouvernement à l'époque, au même moment, et donc ça s'impose comme étant la capitale royale sur le littoral face à La Rochelle, à la ville à laquelle finalement Richelieu viendra porter le coup de grâce avec le grand siège. Au cours de cette période qui dépasse le simple règne de Louis XIII et qui dépasse donc le ministériat de Richelieu, il y a également à l'époque de Mazarin et durant la minorité, puis la période où il n'y a pas de règne personnel de Louis XIV, il y a également un autre élément important qui est le transfert progressif d'une partie des activités militaires qui étaient situées à Brouage, pour les mêmes raisons que l'amirauté a été déportée de Luçon au Sable-d'Olonne. Progressivement, dans le courant du XVIIe siècle, on se rend compte que Brouage, le havre de Brouage s'envase, et donc maintenir la totalité de la flotte de guerre à Brouage, ça devient compliqué. Et donc, sous le ministériat de Mazarin, il y a un grand personnage qui est l'archevêque de Bordeaux, hein, qui s'appelle Descoubleau de Sourdis, qui va capter à Bordeaux finalement une partie également de l'activité navale, en dehors de l'activité commerciale qu'on a déjà décrite. Et il y en a un qui va en profiter de cette évolution, c'est le prince de Condé, qui lui est gouverneur de Bordeaux et qui, au moment de la Fronde, va finalement faire de Bordeaux un port ouvert aux Espagnols, donc trahison de Condé, ouverture du port de Bordeaux à l'ennemi. De cette période-là, finalement, ce qu'il faut retenir, c'est que Bordeaux a commencé déjà à capter une autre fonction, au-delà de la fonction judiciaire et fiscale de l'amirauté, au-delà de la montée en puissance également de ses activités commerciales. Eh bien, il y a aussi du militaire qui est venu un petit peu s'installer sur les quais du port de la Lune. Et ce militaire, on le voit également, hein, poursuivre sa trajectoire du côté de La Rochelle et du côté de Bayonne, où la monarchie poursuit son œuvre d'encouragement de l'armement de navires corsaires. Alors, ce qu'il faut retenir de cette première modernité, hein, 16e et puis première moitié du 17e siècle, c'est que la monarchie a finalement tenté de pousser son avantage sur ce littoral du Midi-Atlantique. Que pour ce faire, il a fallu qu'elle bouscule un certain nombre de situations acquises, c'est notamment le cas à La Rochelle, et puis qu'il a fallu qu'elle crée également de nouveaux territoires. C'est le cas avec la création du siège de Brouage et le déplacement, en quelque sorte, du siège d'amirauté de Luçon jusqu'au Sable d'Olonne. Bon, il n'empêche qu'au cours de cette période-là, oui, oui, 6 minutes, il n'empêche qu'au cours de cette période-là, eh bien, on s'aperçoit qu'il manque finalement un certain nombre de compétences, et ces compétences, on va les voir apparaître à l'époque de Louis XIV en deux temps. D'abord, le développement d'une vraie politique navale qui va aboutir à la suite de la création du port de guerre de Rochefort et de l'installation d'une nouvelle institution qui n'est pas aux mains des officiers mais aux mains des commissaires du roi, donc des gens qui sont nommés et révoqués en conseil du roi. Donc institution qu'on appelle la marine de guerre, marine royale, donc un intendant à Rochefort, et puis un maillage, vous le voyez sous la forme de ces petits carrés, un maillage de commissariats de la marine, il y en a 17 à l'époque de Louis XIV, entre donc l'île de Boin et la frontière des Pyrénées, et tout ce petit monde-là, ben, il est prévu qu'il soit administré depuis Rochefort par un intendant de marine, hein, qui va d'ailleurs dans un premier temps être confondu dans la même personne avec l'intendant de la généralité d'Aunis Saint-Onge qu'on a vu ce matin, la généralité de La Rochelle. Le premier intendant, ce sera l'intendant Michel Bégon. Alors, les ressorts donc, de ces quartiers, ils sont beaucoup plus petits, il y en a environ 4 ou 5 par amirauté. Leurs compétences sont tout à fait différentes. La marine royale, elle se préoccupe notamment de la gestion de la ressource humaine. Il s'agit d'enregistrer et de gérer donc, les gens de mer pour pouvoir les envoyer au service du roi lorsqu'on en a besoin, constituer les équipages de la flotte de guerre. Et il y a aussi une dimension sociale, puisque ces gens de mer que l'on oblige à servir sur la flotte royale, on va leur attribuer un privilège qui est celui de disposer de pensions, d'invalidité, pour grand âge également. Hein, et c'est la création donc du service des invalides de la marine, qui existe encore aujourd'hui, hein, l'ENIM, établissement national des invalides de la marine. Ce sont les œuvres sociales de tous les gens qui naviguent. Alors, la politique de Colbert et Louis XIV, elle est navale, elle est également maritime et coloniale. C'est-à-dire qu'à l'époque de Colbert, on essaie de réorganiser le commerce, qui cette fois-ci n'est pas le commerce de cabotage le long des côtes françaises et européennes, mais qui est un commerce au long cours vers des colonies dont on essaie de développer finalement l'économie. Et on voit que sous le règne de Louis XIV et de Colbert, il va y avoir une tendance à la métropolisation, c'est-à-dire à confier au seul port de commerce le soin de réaliser ce commerce avec les colonies, ce commerce au long cours. Alors d'abord dans le cadre de compagnies de commerce qui vont très mal fonctionner, Et puis, à l'issue du règne de Louis XIV, on va reprendre l'ensemble de ces privilèges qui étaient attribués à des compagnies de commerce. Donc, il y en avait de nombreuses. Hein. La seule qui va survivre, c'est celle des Indes orientales, qui sera basée à Lorient. Mais toutes les autres vont disparaître. Et on va répartir leurs privilèges autour d'une liste de ports privilégiés, ce qui sera fait donc en 1718. Et les deux seuls ports privilégiés du Midi-Atlantique, ce sera La Rochelle et Bordeaux. Ce seront les deux seuls à avoir le droit de faire du commerce au long cours. Donc, là encore, hein, on voit une concentration autour de ces deux ports-là. La marine reste dans un premier temps à Rochefort, et le monopole de la guerre sur mer reste à Rochefort, mais évidemment, à partir du moment où la création de richesses et la concentration, en quelque sorte, des activités maritimes va se faire à La Rochelle et surtout à Bordeaux, eh bien, les choses vont radicalement évoluer. Et au XVIIIe siècle, on s'aperçoit qu'il y a à la fois mutualisation des fonctions portuaires, c'est-à-dire que Rochefort va devoir abandonner un certain nombre de ses prérogatives, de ses monopoles militaires, notamment dans le domaine du transport des troupes et des marchandises pour les colonies. Rochefort est impuissant à réaliser cette œuvre de logistique à lui tout seul. Et donc ce port doit s'appuyer sur La Rochelle, sur Bordeaux et même sur Bayonne. Et puis lorsqu'il s'agit de se battre contre les Anglais au XVIIIe siècle, on va même inciter, encore plus qu'on ne le faisait avant, le port de Bayonne, à la fois à armer des corsaires, mais aussi à fabriquer des navires de guerre. Et on va voir l'installation donc de chantiers navals et d'un arsenal dépendant de la marine à Bayonne. Donc vous voyez que les ports qui au départ avaient des fonctions qui étaient bien spécifiées au XVIIIe siècle, finalement, en quelque sorte, la créature échappe à son créateur et l'État royal qui a favorisé un certain nombre de fonctions portuaires les voit finalement se répartir de façon organique, pourrait-on dire. Et c'est essentiellement sous la pression de ceux qu'on appelait les édiles ou les élites locales. Il y a des chambres de commerce qui se créent à La Rochelle et à Bordeaux dans les premières décennies du XVIIIe siècle et elles ne sont évidemment pas étrangères au fait que ces deux ports vont être les seuls à capter en quelque sorte le monopole du commerce colonial. Pour évidemment permettre l'accompagnement de cette croissance économique, la marine de guerre doit également subir une forme de dilatation en termes d'unités qu'on va construire et qu'on va mettre sur mer, donc des vaisseaux et des frégates. Puis il faut trouver les hommes pour les armer, ces vaisseaux et ces frégates. Et on va créer 8 nouveaux quartiers de l'inscription maritime, 8 nouveaux quartiers destinés à lever les équipages de la flotte de guerre. Et ces quartiers, on ne les crée pas sur le littoral, on les crée le long des fleuves. Hein, puisqu'on va voir la création du quartier de Saintes, de celui d'Angoulême, de celui de Langon, de celui de Libourne et de celui d'Aix. Donc là, on va chercher des marins d'eau douce, en quelque sorte, pour armer les navires de la flotte de guerre et permettre à la marine royale de défendre ce commerce français qui est en croissance exponentielle au XVIIIe siècle. Et essentiellement, d'ailleurs, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, on perd le Canada, on a l'impression que c'est un recul, mais en réalité, on va tellement investir dans les îles à sucre que l'essentiel de l'activité commerciale va se faire du côté des Antilles et aussi à côté de la sinistre traite négrière. Alors, vous voyez donc une recomposition des territoires, alors qui nous permet d'aborder en différents points, hein, finalement, l'évolution de ce maillage territorial et de ces territoires de la politique d'intervention maritime et navale. Bon, au début, il est clair que c'est le roi juge qui, finalement, cherche à être présent sur le littoral, le roi collecteur d'impôts aussi, hein, puisqu'il s'agit donc de prélever des taxes sur les échanges maritimes. Au moment des guerres civiles, donc guerre de religion, mais également fronde, on voit également donc la présence de changements environnementaux et les premières réformes territoriales, les transferts de sièges, Luçon, les Sables d'Olonne, création du siège de Brouage, mais transfert des fonctions militaires pour partie à Bordeaux à l'époque de Sourdis, puis de Condé. Et puis avec Louis XIV, c'est le roi de guerre, son arsenal, ses classes de la marine qui permettent de recruter les équipages, c'est l'ère de la marine et des colonies, qui préfigure un XVIIIe siècle où ce sont les négociants et les grands ports de commerce, La Rochelle, mais surtout Bordeaux, qui vont finalement faire la politique maritime et navale du Royaume de France et, quelque part, arracher finalement à l'État le monopole qu'il pouvait exercer sur, j'ai envie de dire, l'animation de ces territoires du littoral qui deviennent aussi, à la fin du XVIIIe siècle, des territoires estuariens et fluviaux. Voilà, je vous remercie.
Tant que ça chauffe, ouais. De cette communication très claire sur la structuration du littoral par la succession des politiques administratives et commerciales et économiques, et cela à plusieurs échelles, puisqu'on comprend cette structuration que si on fait la relation avec les territoires ultramarins, comme on dit aujourd'hui. Merci. Gilles, sans transition. pour passer à l'économie sociale et solidaire.
Sans transition, on saute plusieurs siècles, puisque ce dont je vais vous parler, l'économie sociale et solidaire, c'est quand même en France, c'est un mouvement qui historiquement s'est constitué à la fin du 19e siècle, mais du point de vue des politiques publiques, qui est vraiment reconnu depuis même pas 10 ans. On va en parler, donc c'est très récent. Alors c'est une communication qui est coécrite avec Jérémy Collomb, qui pour des raisons de santé ne peut pas être présent aujourd'hui, qui est donc doctorant, qui est en première année de doctorat de sciences économiques, sur le thème de la co-construction des politiques publiques d'économie sociale et solidaire. Donc c'est en grande partie en lien avec son sujet de thèse. Ici, donc, on va évoquer ce qui se passe actuellement dans les nouvelles régions en matière de politique d'économie sociale et solidaire. Et donc, on a intitulé la communication « La grande transformation pour l'économie sociale et solidaire » avec un point d'interrogation parce que, on peut se demander si c'est vraiment un changement ou si c'est simplement la reconnaissance institutionnelle de ce qui se passait déjà antérieurement. Alors, pourquoi une grande transformation ? Parce qu'en fait, je vous ai dit qu'on est vraiment sur une période très très récente, on a deux lois fondamentales. La loi sur l'économie relative à l'économie sociale et solidaire de 2014, loi dite Benoît Hamon, qui dans son chapitre 2 met en place tout un ensemble de prescriptions en matière de politique territoriale de l'économie sociale et solidaire, on va en reparler. Et puis la deuxième loi, on en a déjà largement parlé ce matin, c'est la loi NOTRe de 2015. Et à l'intérieur de la loi NOTRe, dans l'article 2 donc, qui met en place le schéma régional de développement économique international et d'innovation, cet article 2 spécifie bien que l'économie sociale et solidaire doit intégrer ce schéma régional. Et donc on a quelque chose d'assez complexe qui est en train de se mettre en place. Quand je dis qu'il est en train de se mettre en place, c'est-à-dire on est sur les années 2016-2017 et c'est en cours de réalisation sur le règlement d'intervention OSS. La région Nouvelle-Aquitaine l'a sorti fin mars 2017, donc on est vraiment dans l'actualité. Et les régions ne sont pas toutes avancées de la même manière, à la fois sur le schéma régional et sur les aspects ESS. Donc on a quelque chose qui est un petit peu complexe d'articulation entre ce qui relève de la loi NOTRe, ce qui relève de la loi ESS, deuxième grande transformation, au-delà de la reconfiguration des régions, c'est aussi les élections régionales de 2015 qui ont quand même pas mal bouleversé le paysage politique. C'est-à-dire que quand on regarde la situation actuelle en termes de périmètre géographique et de majorité au niveau régional, on constate que finalement, sur les anciennes 22 régions, il n'y en a que deux qui n'ont pas connu de changement. C'est la Bretagne et le Centre-Val de Loire, c'est-à-dire qui ont conservé le même périmètre et qui ont conservé une majorité qui était déjà socialiste avant et qui est restée socialiste. Mais toutes les autres régions, il y a quelque chose qui a bougé, soit en termes de périmètre géographique, soit en termes de changement de majorité, soit sur les deux aspects. On a du mal à raisonner toutes choses égales par ailleurs en se disant il y a une nouvelle loi ESS, il y a une loi NOTRe qui spécifie des choses sur l'économie sociale et solidaire, qu'est-ce que ça change ? Parce que en parallèle, les périmètres et les changements de majorité ont eu lieu exactement sur la même période. Et dernière chose que je voudrais souligner dans cette introduction, c'est qu'il y a quand même deux régions qui, du côté des fusions, sont particulières, c'est la Nouvelle-Aquitaine et c'est le Grand Est, puisque c'est une fusion de trois régions. Et que quand on négocie à deux, c'est déjà difficile. Quand on négocie à trois, ça devient beaucoup plus complexe. Et là, il y a de la théorie des jeux qui rentre en ligne de compte. Et on le voit bien dans l'économie sociale et solidaire. Donc pour notre région, les ententes entre les anciens du Limousin, de l'Aquitaine et du Poitou-Charentes sont à géométrie variable. Et ça devient encore plus complexe quand on est à trois autour de la table au lieu de deux. Alors... Pour revenir un petit peu à l'histoire de l'économie sociale et solidaire, mais l'histoire récente, depuis le début des années 2000, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, que ce soit les mutuelles, que ce soit les coopératives ou les associations, ont toujours eu un discours en termes d'ancrage territorial. Je vous ai mis ici quelques extraits de textes identitaires de l'économie sociale et solidaire. Le texte fédérateur de toutes les familles, c'est un petit peu la charte européenne de l'économie sociale. Et dans cette charte, qui est assez courte, qui fait même pas une page, il y a dans les caractéristiques essentielles de l'économie sociale, il est dit que l'économie sociale joue un rôle important dans le développement local. Au niveau des coopératives, si on prend par exemple la déclaration de l'identité coopérative de 2010 de COP.fr, qui regroupe toutes les familles coopératives, des coopératives agricoles, des banques coopératives, des coopératives de commerçants, des coopératives de consommateurs, etc. Vous avez les SCOP, vous avez toutes les familles de coopératives. Il est dit que la coopérative contribue au développement régional et à l'ancrage local. Chaque fois, c'est des textes courts, hein. C'est des chartes, des discours, des présentations d'une page. Et à chaque fois, vous allez voir que l'ancrage territorial, il est bien spécifié. Autre exemple, du côté des associations, le manifeste pour le mouvement associatif, là, qui est beaucoup plus récent, qui est de 2016, hein, il est dit les associations développent l'emploi au plus près des territoires. Au niveau des mutuelles de santé, les services de soins favorisent l'accès de tous à la santé sur l'ensemble du territoire. Et au niveau de la dernière famille de l'économie sociale et solidaire, les entreprises sociales, l'entrepreneuriat social, là aussi, qui est fédéré depuis 2012 dans un mouvement qui s'appelle le MOVE, les entreprises sociales savent justement créer de l'emploi là où l'État et les collectivités ne savent plus le faire seuls, dans les territoires fragiles, les quartiers sensibles, les bassins en reconversion. Donc il y a toujours, il y a depuis au moins une quinzaine d'années, un discours très fort des différents acteurs de l'économie sociale et solidaire sur la revendication d'un ancrage territorial qui peut être décliné sous le terme de local, de communautaire, de régional. Et à chaque fois, on insiste bien sur l'aspect, je dirais, développement économique et emploi. Alors, derrière ces discours, qu'est-ce qu'il y a ? À chaque fois, il y a des arguments qu'on retrouve assez systématiquement. Le premier argument, c'est de dire... et c'est des arguments qui, à chaque fois, sont un peu en termes de comparaison par rapport à l'économie dite capitaliste, à l'économie des grands groupes. Le premier type d'argument, c'est autour de la prise des décisions, de la localisation des prises de décisions qui seraient plus décentralisées en province. Je vous donne juste un exemple de ce que dit COP.fr à propos de l'ensemble des coopératives françaises. Il relève dans le panorama 2015 des coopératives. En 2014, ce sont 73% des sièges sociaux des 100 plus grandes entreprises coopératives qui sont situées en région, alors que 91% des sièges sociaux des plus grandes entreprises françaises sont établis en Île-de-France. Donc c'est l'idée que concernant les grandes entreprises françaises, tout se passe à Paris. Alors que concernant les coopératives, eh bien, pour les trois quarts, ça se passe en province. Donc ça, c'est le premier type d'argument qu'on trouve. C'est sur l'exemple des coopératives, mais on aurait pu prendre également les associations ou les mutuelles sur ce type d'argument. Deuxième type d'argument qu'on trouve sur l'ancrage territorial, c'est que les emplois seraient mieux répartis au bénéfice de territoires en difficulté. Deux exemples de ça. Premier exemple, quand on regarde le département où l'économie sociale et solidaire pèse le plus relativement en termes d'emploi, c'est la Lozère. 23% de l'emploi en Lozère relève du secteur de l'économie sociale et solidaire, alors que la moyenne nationale se situe à 10%. Et quand vous regardez la hiérarchie des départements en termes de poids de l'ESS, vous apercevez qu'en effet, les territoires ruraux, par exemple, l'ESS a plus d'importance que dans les territoires plutôt urbains. Ou deuxième exemple, si on s'attache aux quartiers en difficulté, aux quartiers urbains en difficulté, quand on regarde le positionnement des régies de quartier, qui est un mouvement des structures d'insertion par l'activité économique. Quand on regarde le positionnement de mémoire 140 régies de quartier et de territoire, là aussi, ces régies de quartier sont positionnées sur 320 quartiers prioritaires où vivent plus de 3 millions d'habitants. Donc à la fois en termes de ruralité et de difficultés urbaines, l'économie sociale et solidaire serait mieux répartie sur le territoire. Troisième type d'argument, c'est en termes de maillage territorial et en termes de capacité de morphisme, d'adaptation fine aux besoins locaux. Il y aurait une souplesse de l'économie sociale et solidaire en termes d'adaptation au territoire qui n'existerait pas dans l'économie capitaliste. Alors, on peut prendre comme exemple l'exemple des services à la personne, où ce sont les associations qui, entre guillemets, tiennent le marché, comme les ABMR, par exemple. Donc, qui à l'origine étaient des associations en milieu rural, mais il est intéressant de regarder l'évolution du logo et s'apercevoir que maintenant elles sont positionnées partout et que le logo a évolué. Auparavant, c'était un village avec une petite église, des champs, et c'est plus du tout ça. Et quand on regarde le discours des ADMR, justement, cette adaptation, cette capacité d'adaptation est soulignée, et également le fait d'être présent sur l'ensemble des territoires, qu'ils soient urbains ou ruraux. Quatrième type d'argument, c'est sur l'effet taille. Alors là, c'est surtout pour les associations. Quand on regarde la structure d'emploi dans les associations, on s'aperçoit qu'on est tout à fait sur des tailles de TPE et de PME. Juste deux chiffres là-dessus, hein, enfin même juste un chiffre. 44% des associations ont 44% des associations employeuses, donc un ou deux salariés. Donc c'est l'équivalent de TPE. Et si on prend sur la deuxième chiffre, la barre des 100 salariés, c'est 98% des associations qui ont moins de 100 salariés. Donc on est vraiment sur la dimension TPE et PME. TPE d'abord prépondérante et PME ensuite. Et donc on a tout le discours habituel sur les PME et les PME qui enrichissent le territoire, qui valorisent le territoire, etc. Simplement décliné ici sur l'aspect association. Et puis le dernier argument de l'ancrage territorial, c'est l'histoire. C'est quand on regarde l'histoire des grands mouvements de l'économie sociale et solidaire, on a toujours une histoire qui surgit d'expérimentation locale et qui font ensuite essaimer et se fédérer au niveau cantonal, puis départemental, puis national. Et c'est cette histoire qui remonte parfois à très loin, à 150 ans, c'est une histoire de construction par le bas et qui est encore très présente aujourd'hui. Je vous donne juste un exemple. Quand on regarde les banques coopératives, par exemple le Crédit Agricole, qui est quand même la quatrième banque mondiale, ce Crédit Agricole est encore structuré intégralement sur la base de caisses locales qui sont à base cantonale. C'est encore très très présent cet ancrage territorial dans la gouvernance, dans la structure de gouvernance du Crédit Agricole, alors que c'est devenu une banque capitaliste, multinationale, etc., présente partout dans le monde. On a encore un ancrage local très fort. Ou autre exemple, quand vous regardez qui sont les présidents de ces caisses locales, 75% des présidents de caisses locales de Crédit Agricole sont des agriculteurs encore aujourd'hui. Donc vous avez un poids de l'histoire qui est vraiment très très lié au territoire. Je pourrais prendre, toujours parce que c'est un secteur que je connais bien dans les banques coopératives, le Crédit Mutuel. En ce moment, depuis maintenant 5-6 ans, il y a une grosse opposition entre les crédits mutuels de l'Est et les crédits mutuels de l'Ouest, avec Arkéa d'un côté à l'Ouest et le Crédit Mutuel 11 du côté Est. Et en fait, on retrouve des oppositions qui sont les oppositions entre les crédits mutuels protestants et les crédits mutuels catholiques du 19e siècle. Et ça, on pourrait l'illustrer sur beaucoup de choses. On pourrait prendre aussi les mutuelles d'assurance. J'ai regardé par curiosité où étaient les sièges des 10 premières mutuelles d'assurance en France. Et c'est très étonnant, vous en avez 2 qui sont en région parisienne, 8 qui sont en province et elles sont toutes à l'ouest. Alors évidemment, il y a Niort, vous avez, si vous prenez les 10 premières, vous en avez 4 à Niort, mais vous en avez une à Vendôme, une à Orléans, une au Mans. Puis il doit m'en manquer une, mais elles sont toutes à l'ouest et les sièges sociaux de ces grandes mutuelles d'assurance restent justement en province. Donc il y a vraiment un ancrage territorial très fort et qui est évidemment historique. Hein. Quand vous prenez MMA, évidemment, c'est lié à la ville du Mans encore jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, la Maïf à Niort en est un autre exemple. Alors, ça, c'est l'histoire de l'ESS qui revendique cet ancrage territorial avec des justifications, comme je viens de montrer, du point de vue statistique. Alors, cette reconnaissance du fait territorial, hein, elle est maintenant reconnue par la loi d'économie sociale et solidaire de 2014. Alors, je ne détaille pas ici, mais simplement, l'intitulé de la loi est intéressant. Quand Benoît Hamon, en juillet 2013, dépose le projet de loi, enfin présente le projet de loi au Conseil des ministres, l'intitulé de la loi est le suivant. Hein. Je le retrouve pour ne pas dire de bêtises. Voilà. Donc l'intitulé de la loi, c'est « Entreprendre autrement pour créer des emplois dans nos territoires ». Dans nos territoires, quand on dit « dans nos territoires », donc on est bien sur un aspect qui est territorial, mais surtout nos territoires, en filigrane derrière pour moi, il y a nos territoires en difficulté. Nos territoires en difficulté, rural, quartier urbain en difficulté, etc. Mais quand on dit dans nos territoires, c'est vraiment cette optique-là qui est sous-entendue. Alors, il y a tout un ensemble d'articles, hein, article 2 sur l'utilité sociale, article 3 sur un guide des bonnes pratiques en ESS, article 9 sur les pôles territoriaux de coopération économique. Il y a tout un ensemble d'articles. Toute la première partie de la loi considère que les organisations d'économie sociale et solidaire sont des agents de la régulation économique territoriale. C'est-à-dire c'est une reconnaissance du poids économique, du rôle économique dans les territoires de l'économie sociale et solidaire. La deuxième partie de la loi organise toute une gouvernance territoriale de l'économie sociale et solidaire, c'est les articles 6, 7 et 8, avec 2 acteurs clés, un binôme, qui sont les CRES, les chambres régionales d'économie sociale et solidaire, et les régions. C'est les 2 pilotes de cette politique d'économie sociale et solidaire. Et puis donc, se surajoute à ça, un an après, la loi NOTRe, qui dans l'article 2 spécifie que les orientations qui ont été définies dans les conférences régionales de l'économie sociale et solidaire mises en place par les CRES et les régions doivent trouver une traduction au niveau du SR2I. Donc on a vraiment une reconnaissance à la fois de l'aspect économique territorial de l'ESS et l'organisation, la mise en place d'une stratégie politique de gouvernance ESS au niveau régional. Alors, à partir de là, on peut se poser différentes questions. Première question, pourquoi la politique ESS devrait se faire au niveau régional ? Pourquoi elle devrait se faire au niveau régional et pas pourquoi pas au niveau départemental ou au niveau intercommunal ? Pourquoi cette question ? Premièrement, ce périmètre régional pose le problème du temps et des coûts de déplacement pour les petites structures de l'économie sociale et solidaire. On a vu que très majoritairement dans le secteur associatif, c'était des petites structures. Pour le dire très crûment, si tout se passe à Bordeaux, quelle est la conséquence en termes de temps de déplacement et de coûts de déplacement, à la fois pour les salariés, mais également pour tous les bénévoles qui sont au conseil d'administration, les présidents d'associations, etc. Donc, il y a d'abord ce premier problème. Deuxième problème, il y a un ensemble de secteurs de l'économie sociale et solidaire où la collectivité territoriale majeure n'est pas forcément la région. Le premier secteur de l'ESS en termes d'emploi, c'est l'action sociale. C'est 37% des emplois au niveau national, de 37% de l'emploi de l'ESS qui est dans le domaine de l'action sociale. Et l'acteur public prépondérant, c'est le département sur l'action sociale, ce n'est pas la région. Troisième problème, quand on regarde le secteur des associations dans sa globalité et qu'on regarde les financeurs publics, juste un aparté, hein. Contrairement à ce qu'on dit, les associations, majoritairement, ce n'est pas le financement public. Elles ont leur autofinancement pour 51%, 49% c'est du financement public. Et dans ces 49% de financement public, en fait, les trois acteurs majeurs, autour de 12% du financement total des associations, ce sont les départements, l'État et les communes. Les régions ne représentent que 3% du financement de l'ensemble des associations. Donc si on prend le critère du financement, les régions ne sont pas prépondérantes. Quatrième élément, quand on regarde l'organisation des différentes fédérations d'associations, de mutuelles, de coopératives, on a des relations qui sont historiquement et culturellement très diverses, qui sont des relations qui peuvent être fondées sur des niveaux de proximité qui peuvent être géographiques, administratifs, alors là ça colle éventuellement avec le niveau départemental et régional, mais aussi institutionnel et fonctionnel, et on a des découpages qui sont très très différents selon les catégories d'associations. Et puis, dernier élément qui met en interrogation le fait de choisir la région comme périmètre de pertinence, c'est quand on interroge les acteurs aujourd'hui, et c'est ce que fait Jérémy Colomb depuis le début de sa thèse, depuis l'été dernier, c'est d'interroger à différents moments les acteurs de l'ESS pour suivre un petit peu l'évolution de leurs opinions par rapport à justement l'évolution de la mise en place des dispositifs. On relève que l'ensemble des acteurs, notamment associatifs, ont une forte crainte que les moyens soient dirigés vers les grandes structures, qu'à partir du moment où c'est la région qui prend la main, ce soit les grosses structures qui sont présentes à Bordeaux, qui ont des salariés à Bordeaux, qui ont un pouvoir de lobbying à Bordeaux, qui emportent le morceau, si je parle de la région Nouvelle-Aquitaine. Mais c'est assez général au niveau des régions. Il y a vraiment une peur que cette centralisation au niveau régional des politiques ESS soit plutôt favorable aux grosses structures. Alors, deuxième exemple d'interrogation, c'est, on peut se dire, bon, la loi ESS et la loi NOTRe ont l'avantage de reconnaître l'importance de l'ESS. Comment ça se traduit au niveau des organigrammes politiques et des services ? Alors, on a regardé ce qui se passait au niveau des organigrammes politiques sur donc l'ensemble des 12 régions actuelles, hors Corse, hein, parce que la Corse est vraiment très très spécifique, on l'a pas mis ici. Spécifique au niveau de l'organisation. Hein, c'est l'équivalent d'un gouvernement, etc. Donc, c'est assez difficile de classer de la même manière que les autres régions. Pas que, mais bon, voilà. Et on a mis également tout ce qui était région d'outre-mer à part, hein, parce que là aussi, c'est un peu particulier. Alors, quand on regarde, on s'aperçoit que finalement, on a eu la loi ESS, on a eu la loi NOTRe, et ben, il y a plutôt un déclin du poids de l'ESS, puisque dans la mandature précédente, on avait 12 régions où il y avait un vice-président qui avait dans son intitulé de fonction l'ESS. Et dans 8 autres régions, on avait un conseiller délégué dont l'intitulé comportait l'ESS. C'est-à-dire qu'il n'y avait qu'une seule région où l'ESS n'était ni au niveau vice-présidence, ni au niveau conseiller délégué, c'était l'Alsace. C'était la seule des 21 régions qui n'avait pas l'ESS présente à ces deux niveaux-là. Aujourd'hui, on n'a plus que 5 régions sur 12 qui ont un vice-président ESS. Il n'y en a que 3 régions ou 2 régions qui ont un conseiller délégué. Donc en termes de pourcentage, ça marque un affaiblissement de l'ESS. On passe de 95% à 42%. Et quand on regarde l'organigramme des services, c'est un petit peu la même chose. Alors là, c'est un peu plus difficile parce que toutes les régions n'ont pas encore mis en place leur organigramme des services, ou plus exactement, ne l'ont pas encore rendu public. On n'a plus que 2 régions qui ont une direction économie sociale et solidaire. C'est la Nouvelle-Aquitaine et le Centre-Val-de-Loire. Les autres régions, il faut aller trouver l'ESS soit au niveau d'un service, soit à un niveau inférieur de service, voire il n'y a pas du tout d'ESS, ou alors l'information n'est pas disponible. Et deuxième élément, quand on regarde l'organigramme des services qui est important, sur les 7 régions qu'on a référencées où on trouve l'ESS au niveau direction-service ou le niveau d'en dessous sous-service, dans les 7 cas, l'ESS est rattaché au développement économique. Alors qu'auparavant, ça pouvait être dans le vivre ensemble, dans l'environnement, etc. L'ESS est maintenant systématiquement rattaché à l'économie, au développement économique. Troisième interrogation, la loi ESS de 2014 proposait une formule de co-construction des politiques publiques d'ESS entre acteurs et collectivités territoriales. On a essayé de mesurer ça entre ce qui s'est passé dans les conférences régionales et la traduction de ces conférences régionales d'économie sociale et solidaire dans les SR2I. Alors, je ne détaille pas ici, faute de temps, le tableau. Simplement, l'idée, c'est qu'on a calculé 2 taux. D'abord, de voir ce qui avait été dit dans les conférences régionales, comment c'était repris dans le SR2I, c'est le taux de reprise. Et donc, bon, par exemple, sur la Nouvelle-Aquitaine, il y a 69% des mesures préconisées par la conférence régionale qui sont reprises dans le SR2I, donc c'est plutôt positif. Les 2/3 de ce qui était sorti des conférences est repris dans le SR2I. Et puis, l'autre élément qui a un taux de co-construction, c'est de se dire qu'est-ce que les régions ont mis en plus de ce qui n'avait pas été dit dans les conférences régionales. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le taux de co-construction. Donc, 79%, ça veut dire que il y en a 21%, c'était des choses qui n'ont jamais été discutées dans les conférences régionales, mais que la région, pour la Nouvelle-Aquitaine, que la région a mis dans le SR2I. On peut aller un peu au-delà, mais là, on vient juste de commencer, puisque ça vient juste de sortir, sur le règlement d'intervention. Sur le règlement d'intervention Nouvelle-Aquitaine ESS, donc c'est en fait, ça a été présenté fin mars comme étant un règlement d'intervention économie sociale et solidaire et innovation sociale. Or, en fait, en creusant un peu les choses, on s'aperçoit que c'est une sous-rubrique du règlement d'intervention des aides régionales aux entreprises. C'est-à-dire qu'on considère l'ESS dans l'optique aide aux entreprises, c'est l'orientation 6. Je ne détaille pas cet aspect-là. Puis la dernière étape de notre travail, ce sera de regarder ce qui se passe dans les budgets. C'est pas tout de regarder le SR2I, de regarder les règlements d'intervention. Il faut voir après les moyens financiers qui seront mis derrière. Mais ça, on pourra le voir qu'à partir des budgets 2018 au mieux. Dernier élément, quel repositionnement des têtes de réseau face à ces changements? Alors les questions qui se posent aux têtes de réseau, elles sont de 3 types. Où mettre le siège? Donc je parle des régions qui sont fusionnées, où mettre le siège, quel président choisir et quel directeur choisir. Où est-ce qu'on met le bureau et qui est le chef. Et donc il faut choisir entre les 2 ou 3 précédents, les 2 ou 3 sièges existants, les 2 ou 3 présidents précédents, les 2 ou 3 directeurs précédents. Alors, au niveau des CRES, c'est assez simple, puisque la loi est très claire, c'est une obligation légale. Il faut une CRES par région. Elles sont obligées de le faire. C'est très, très difficile dans 2 régions, et ce n'est pas un hasard, c'est dans les 2 régions où il y a fusion de 3 régions préexistantes. C'est la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est. La Nouvelle-Aquitaine, ce n'est pas encore joué. Et c'est encore plus difficile dans le Grand Est, parce que l'Alsace le joue de manière très, très particulière. Mais c'est... Elles n'ont pas le choix, elles le font, mais elles le font sous des formes parfois très différentes et en essayant de défendre leurs précarés initiaux. Tout n'est pas encore joué là-dessus. Deuxième exemple où c'est assez simple, c'est dans le domaine du sport, puisque le ministre des Sports et de la Jeunesse a rappelé que dans le cadre du Code du sport, il était obligatoire que les fédérations se calquent sur le territoire administratif. Et donc toutes les ligues régionales sportives sont obligées de se caler sur les nouvelles régions. Ce qui, là aussi, n'a pas été facile. Si vous avez suivi l'actualité sur la Ligue de foot ou sur la Ligue de hand, ce qui s'est passé entre le Centre-Ouest, l'Aquitaine, etc., ça n'a pas été vraiment simple. À la fois au niveau de la question du siège et au niveau de la question du président. Mais là aussi, pas le choix. Le ministère a été très clair là-dessus. Dans d'autres secteurs, l'enjeu il est plus faible, comme par exemple dans le domaine du social, parce que l'acteur prépondérant, on l'a vu, est plutôt le département. Et quand on regarde donc les têtes de réseau où il n'y a pas d'obligation de fusionner, mais où quand même la région est importante, on s'aperçoit que les négociations actuelles dépendent de différents éléments qu'on peut classer en quatre catégories. Premier élément, il y a des cas où dans les ex-régions, il n'y avait pas forcément d'organisme présent. C'est-à-dire il y avait un organisme en Poitou-Charentes, mais par exemple, il n'y en avait pas en Limousin. Et donc, c'est juste une négociation Poitou-Charentes-Aquitaine. Deuxième cas de figure, il pouvait y avoir plusieurs organismes concurrents dans une région préexistante. Et donc là, ça complexifie la donne, parce que dans une région, vous aviez qu'un organisme qui représentait l'ensemble du secteur. Dans l'autre région, vous aviez deux organismes concurrents. Et donc, qui on met autour de la table ? Troisième cas de figure, c'était est-ce qu'il y avait déjà des relations entre les différents organismes régionaux auparavant, avant la fusion. Est-ce qu'il y avait déjà des partenariats ou pas? Il n'y en avait pas forcément. Il y a des cultures particulières. Par exemple, la Ligue de l'enseignement, ce qui se passait en Aquitaine ou en Poitou-Charentes était très, très différent. Et puis, quatrième question, il y a les inquiétudes des salariés sur ces fusions en termes de déplacement, en termes d'alignement des conditions salariales, des conditions de travail, etc. Au total, quand on regarde la Nouvelle-Aquitaine, les choses sont encore en cours. On ne peut pas encore faire de panorama définitif de ces regroupements de réseaux, parce que les choses sont vraiment en train de se jouer là sur 2017. On a des cas, mais ça Olivier va le développer de manière beaucoup plus générale, on a des cas d'annexion pure et simple où l'Aquitaine va annexer ce qui existait en Poitou-Charentes ou en Limousin. On a des cas de fusion, on a des cas de multipolarité. On a des cas où il y a une résistance très très forte d'une ex-région. Et puis on a des cas où il y a des refus absolus de regroupement et où les acteurs ont définitivement divorcé. Ils ne se sont même pas mariés. Conclusion. Quand on regarde ce qui s'est passé autour de l'économie sociale et solidaire et de cette cristallisation régionale de l'ESS depuis donc 2014, la loi de 2014 et la loi NOTRe de 2015 sont vraiment un pas en avant pour l'économie sociale et solidaire en termes de reconnaissance institutionnelle de l'unité de l'ESS. Auparavant, on avait vraiment des lois, un ensemble législatif, des institutions côté coopérative, côté mutuelle, côté association. Mais là, on a vraiment une reconnaissance institutionnelle de cette unité. Et puis ça entraîne aussi une visibilité auprès de la population qui n'existait pas auparavant. Deuxième avantage de cette législation, c'est l'obligation de penser et de structurer une stratégie ESS. Il y a vraiment une obligation pour les régions de penser et de structurer une politique ESS. Donc ça, c'est important. Mais comme on l'a vu, premier problème, cette mise en œuvre, ces regroupements se font à marche forcée. On dit aux structures, vous n'avez pas le choix, en un an ou deux ans, il faut que vous fusionniez, que vous vous regroupez, etc. On veut voir qu'une tête. C'est un petit peu le discours dominant. Et alors que c'est des structures qui ont des décennies d'histoire, de culture territoriale particulière, parfois au sein du même réseau. Deuxième difficulté, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est un ancrage qui est territorial à différents niveaux. Et donc le problème, c'est l'articulation du niveau régional, départemental, intercommunal et communal. Et c'est fondamental pour de nombreux secteurs de l'économie sociale et solidaire. On l'a vu par exemple sur l'exemple des subventions. Troisième problème, c'est que la loi ESS, c'est quand même un marquage du désengagement quasi total de l'État en matière d'économie sociale et solidaire, qui passe très clairement la main aux régions sur cette question-là. L'État ne fait, enfin, il faisait déjà pas grand-chose, mais il fait maintenant plus rien en matière d'économie sociale et solidaire. Quatrième problème, on l'a vu à travers les organigrammes, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, de manière paradoxale, on a une loi économie sociale et solidaire, et on a l'impression que les régions s'intéressent moins à l'ESS que dans la mandature précédente. Alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Est-ce que c'est l'effet de changement de majorité? On avait des majorités de gauche avec un poids des écologistes qui était important, et les écologistes depuis les années 2000 ont été très moteurs en matière de développement de l'ESS. Est-ce que c'est une question de changement d'échelon de régions de taille plus importante qui pose problème? Est-ce que la mode est passée? Une mode qui tenait beaucoup à la crise de 2008. Ça, c'est peut-être un peu tôt pour le dire. Et puis, dernier élément problématique, on l'a vu, hein, ces politiques régionales d'économie sociale et solidaire sont entièrement placées sous une obsession d'emploi et de développement économique. Or, l'économie sociale et solidaire, même si elle s'intitule « économie sociale et solidaire », elle a bien d'autres dimensions que l'emploi et simplement l'économie au sens monétaire du terme. Et on oublie complètement dans cette mise en place des politiques d'économie sociale et solidaire les aspects liés au bénévolat, les aspects liés à la création de richesses immatérielles et de liens sociaux. On est entièrement focalisé sur des questions de création d'économie monétaire marchande ou non marchande, mais en tout cas pas de création de richesses non monétaires. Et on oublie complètement tous ces aspects immatériels de liens sociaux et de bénévolat. Je vous remercie.
Merci. Merci Gilles. Tout ce que tu dis, on en avait déjà parlé, rejoint les conclusions d'une enquête qui avait été faite par le Conseil de développement de Grand Poitiers sur l'évolution des grandes associations de dimension régionale présentes sur le Grand Poitiers et qui étaient appelées à se redéployer. Il y a Jean-Claude qui est dans la salle qui veut participer à ce travail et je pense qu'il faudra qu'on continue de voir les points communs entre ces éléments qui ne rendent pas évident l'échelon régional pour restructurer des champs qui avaient l'habitude de se structurer à d'autres niveaux auparavant. Serge, tu vas continuer sur cette interaction reconfiguration politique de santé, s'il te plaît, maintenant, pour 20 minutes. Je crois qu'on a pris un peu de retard, mais bon. Mais comme Jérôme est...
Le handicap rare résulte d'une association très particulière et très peu fréquente de déficience. Rareté des publics, rareté des combinaisons de déficience, rareté et complexité des technicités. Ces combinaisons de rareté provoquent plusieurs difficultés dont l'interaction complexifie encore plus la situation de la personne. La simple coordination entre les intervenants de proximité et les ressources d'expertise ne suffit plus pour prendre en charge de manière optimale les personnes en situation de handicap rare. Le fonctionnement en dispositif intégré apparaît alors être une réponse adéquate.
L'intégration est une méthode de travail partenariale qui poursuit plusieurs objectifs. Une approche interdisciplinaire de l'évaluation des besoins et une stratégie de réponse à apporter. L'interdépendance des actions et ressources des acteurs dans la réponse aux besoins spécifiques de la personne. Et le principe de subsidiarité des expertises. Autant que possible, c'est l'échelon de proximité qui répond à la demande de la personne en situation de handicap rare quand il en a les compétences. Ses difficultés ou doutes, il s'adresse à l'échelon plus spécialisé. Le fonctionnement en dispositif intégré repose ainsi sur quatre principes. Le guichet intégré, qui assure unicité et cohérence de la réponse apportée à la personne, quelle que soit la porte d'entrée dans le dispositif. La co-responsabilité des acteurs pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des stratégies de prise en charge adaptées. La pédagogie du doute et du questionnement, qui repose sur un principe de subsidiarité, afin d'élaborer de meilleures stratégies de compensation, ainsi qu'un système d'information partagé, facilitant la circulation de l'information.
La mise en place du dispositif d'intégration repose sur différents acteurs et structures qui interviennent à différentes échelles. La CNSA et la DGCS sont en charge de piloter à l'échelle nationale l'animation du schéma pour les handicaps rares. Les ARS sont pilotes de la politique handicap rare sur leur territoire. Organisé autour d'un réseau d'appui interrégional avec 7 ARS référentes. Le Groupement national de coopération handicap rare anime à l'échelle nationale le réseau des acteurs du handicap rare. Il est soutenu par l'action de 4 centres nationaux de ressources handicap rare présents sur le territoire. Le CRESAM, la Pépinière, Robert-Laplanne, Phare. Les 12 équipes relais rayonnant sur leur interrégion sont des acteurs du territoire clé du dispositif d'intégration.
La loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République va inviter certaines ARS avec les équipes relais et leur établissement porteur à la réflexion sur de nouvelles territorialités d'action sur la base des nouvelles régions. Les besoins et les ressources existants. Ces équipes relais remplissent une triple mission. Mobiliser les acteurs afin de repérer les besoins et les ressources existants. Accompagner les situations individuellement dans l'évolution du parcours de vie. Mettre à leur disposition une expertise.
Oui, je vais essayer de retrouver le PowerPoint. C'est pas celui-là. Delmas Royou, c'est pas moi. Voilà. Bon, donc j'ai arrêté le petit extrait de vidéo qui est pris sur une équipe relais, celle de Paris. Donc vous parlez pendant 10-15 minutes de l'évolution des configurations territoriales et des politiques de santé. Et puis de la question de l'émergence de la méso-échelle, c'est-à-dire du niveau interrégional qui est assez inédit, puisque finalement... Il date de 2006 avec un décret et un arrêté signé par Roselyne Bachelot, à ce moment-là ministre de la Santé. Et donc je voudrais déjà, pour commencer, vous proposer quelques années repères sur le social et la santé. Premier secrétaire d'État à l'action sociale en France, c'est pas très vieux, ça date de la présidence de Giscard d'Estaing, qui s'appelait René Lenoir. C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Les Exclus. Et donc, auparavant, avant 1975, toutes ces politiques étaient pilotées par le ministère de la Santé. Aujourd'hui, il y a deux administrations différentes. Ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a l'administration du social et au niveau de l'État. Elle est aussi au niveau départemental, comme on l'a vu. Je vais y revenir. Et au niveau de la santé... qui est restée une politique déconcentrée, mais qui est une politique nationale. Donc, ensuite, il y a la grande loi fondatrice de 1975 qui a fondé l'organisation sociale et médico-sociale au niveau de la France, donc la loi d'orientation 1975. À l'époque, c'est la Direction générale de l'action sociale qui est pilote au niveau administratif au ministère. En 1982 ou 83, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 83, Gaston Defferre est ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Et il y a les lois de décentralisation. Une grande partie du social est décentralisé au niveau des départements. 80% des missions du social sont dévolues aux départements, qui aujourd'hui, de façon moyenne, consacrent environ la moitié de leur budget. Vous savez que c'est la principale source de dépenses des collectivités départementales. Donc il y a à ce moment-là une décentralisation du social et la santé reste du ressort du ministère de la Santé. Il faut attendre 1986 avec les arrêtés Juppé qui créent les ARH. Les ARH sont les ancêtres des ARS. Les ARH, les agences régionales d'hospitalisation. C'est-à-dire que la politique hospitalière et ce qui va avec est déconcentrée et non pas décentralisée au niveau des régions administratives. Et il y a des directeurs d'ARH qui sont déjà nommés par le gouvernement. Donc ces agences régionales d'hospitalisation ne dépendent pas de la région administrative, mais sont de l'échelon régional, et si on veut, je dis bien si on veut, du préfet de région, encore que. La loi suivante, c'est la loi 2005, loi dite handicap, qui gère encore aujourd'hui le secteur du handicap. Alors, le handicap fait-il partie de la santé ou du social? Parce que finalement, il y a deux ministères, il y a deux politiques. On peut dire qu'il y a trois domaines, on appelle ça comme ça. Il y a le domaine sanitaire, qui dépend directement du ministère de la Santé. Il y a le domaine qu'on appelle social, qui en grande partie dépend des départements. Et il y a le domaine médico-social, c'est-à-dire que c'est le social articulé avec le médical, qui continue à relever du domaine sanitaire. Il y a des prix de journée différents, etc., dans les établissements. Il y a des établissements sociaux, il y a des établissements médico-sociaux, et il y a des établissements hospitaliers. Il y a différents types d'établissements. Donc, nous en sommes à 2005, avec aussi la création de la Caisse nationale solidarité pour l'autonomie, qui est une sorte de cinquième branche de la sécurité sociale qui s'occupe des personnes handicapées et des personnes âgées en grande dépendance. Qui sont, voilà. 2006, c'est les systèmes interrégionaux d'organisation sanitaire et sociale créés par Roselyne Bachelot. C'est très important, ce que vous avez déjà entreaperçu, l'échelle géographique interrégionale. Et c'est à ce moment-là que se crée en France un territoire interrégional qui commence à avoir des missions par rapport au médico-social. Auparavant, je le redis, il y avait l'État, il y avait les départements. Localement, il y a les CCAS, les bureaux d'action sociale, qui, bon, je ne vais pas dire que c'est epsilon, mais par rapport aux masses budgétaires et autres. Et maintenant, il y a un niveau interrégional, et c'est celui-là ce que j'appelais la maison Richel, à travers deux exemples, les interrégions d'agence régionale de santé et les équipes relais pour les handicaps rares interrégionales. Donc, il y a cette mise en place et des espaces de coopération entre ARH en 2006, et puis en 2010, la loi hôpitaux, patients, territoires de 2010 crée les agences régionales de santé, qui sont l'extension des ARH, c'est-à-dire que les ARH se fusionnent avec les DRAS. Les ARH qui sont les niveaux hospitaliers qui dépendent de la DGC, de la DGS et de la DGHOS, avec les DRAS qui sont les échelons régionaux du ministère des Affaires sociales. Donc les ARS prennent une grosse importance. Les directeurs généraux d'ARS sont nommés en conseil des ministres. Ils dépendent même pas du préfet de région. Ils dépendent directement. Ils rendent compte au ministre de la Santé. Et c'est une espèce de survivance de gouvernorat dans notre République. Les directeurs généraux d'ARS sont vraiment très puissants. Et en 2015, il y a donc la loi NOTRe et par exemple l'ARS Poitou-Charentes rejoint avec l'ARS du Limousin, l'ARS de Bordeaux, et le directeur général de l'ARS de Bordeaux, Michel Lafourcade, devient directeur général de l'ensemble de la grande région. Voilà un petit profil. Voilà. Ça, c'est juste c'est un plan provisoire qui sera celui de la communication. Donc, je passe très vite là-dessus. Je vous mets juste un petit glossaire ARS, Agence régionale de santé, CNSA. Bon, vous voyez, c'est important de situer un petit peu. Voilà. Vous avez peut-être eu le temps de lire. Je vous mets là, il n'y a que 8 slides, hein, ça va aller assez vite, deux cartes qui sont et je m'en excuse, pas de très bonne qualité, mais il y a de ce côté-ci la carte issue du décret de l'arrêté de Bachelot de janvier 2006, donc avec les espaces de coopération inter-ARH, donc les inter-régions de santé. Vous voyez que le Poitou-Charente faisait partie de l'inter-région ouest, alors que bien sûr, on le voit avec la carte à côté. Alors, tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait peut-être 14 régions. Moi, j'en ai compté 13 régions issues de la loi NOTRe, mais il y en a peut-être 14, en fait, je ne sais pas. C'est 13 ? Bon, alors, c'est moi qui ai raison. D'accord. Donc, vous voyez que le Poitou-Charentes, bon, il y a eu quelques changements de périmètre. Ce que j'ai peut-être oublié de vous signaler, on ne le voit pas là, c'est qu'il y a eu aussi en 2006 deux interrégions de santé pour les DOM-TOM. Moi, je trouve que c'est extrêmement important, même d'un point de vue géographique, parce que les territoires de santé, il y a une continuité territoriale. Mais par exemple, il y a eu la création de deux interrégions de santé en DOM-TOM, océan Indien, avec l'île de la Réunion et Mayotte, et puis Antilles-Guyane. Et les équipements qui devaient être créés sur Antilles-Guyane, qui fusionnaient en somme la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe, n'ont jamais vu le jour pour des raisons aussi culturelles. D'abord, il y a discontinuité territoriale, parce qu'il y a quand même des bouts d'océan entre les territoires. Les communications, alors quelquefois, les cadres géographiques influencent les politiques. Et aujourd'hui, toutes les équipes relais interrégionales sont créées, même dans l'océan Indien, sauf dans les Caraïbes, où ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas de coopération possible entre la Guyane, la Martinique et la Guadeloupe. Bon, ça, c'était la vidéo qu'on a vue. Donc, l'idée aussi qu'il y a des ARS, des agences régionales de santé, chefs de file, et donc il y a, comme vous voyez, 12 équipes relais interrégionales au niveau donc de cette interrégion qui se sont mises en place. L'organisation intégrée, voilà, l'organisation intégrée, c'est un modèle qui vient de l'économie. Bon, il y a beaucoup d'économistes ici, c'est la chaussure italienne, avec l'idée que les acteurs économiques sur un territoire donné, là c'était dans le Piémont et dans l'Italie du Nord, doivent être complémentaires et coopérer pour une meilleure efficience économique. Donc il y a aussi un peu une mythologie, ça c'est moi qui le dis, holistique, avec l'idée que il faut tout comprendre, enfin, l'idée qu'on va régler tous les problèmes, qu'on va tout prendre ensemble, ça va même plus loin que la systémie. Donc ça, c'est très, très en vogue, je pense que ça a beaucoup de limites. Et donc, voilà, l'organisation intégrée sur un territoire national, ça signifie que tout est articulé, avec le fameux guichet intégré, c'est-à-dire que l'usager qui rentre par la porte du national, de l'interrégional, par n'importe quelle échelle où il rentre, va trouver la même réponse partout sur tout le territoire national. Donc c'est une philosophie qui a ses avantages et ses inconvénients, une philosophie d'action, et on pourrait discuter des concrétisations. Voilà, vous avez repéré les niveaux. La DGCS qui dépend du ministère des Affaires sociales, la CNSA qui est une caisse, on va dire, interministérielle, une agence de la sécurité sociale, de la protection sociale aussi, le groupement national de coopération handicap rare, les quatre centres nationaux de ressources, dont le CRESAM qui est basé à Poitiers, les 12 équipes relais interrégionales, les 7 ARS chef de file interrégional plus les théoriquement 2 ARS interrégionales des DOM-TOM, en réalité une seule, et le niveau local et le niveau régional à proprement parler où il n'y a rien du tout parce qu'il y a quand même il n'y a même plus les ARS, puisque les ARS régionales sont appelées à devenir interrégionales sous la houlette d'un chef de file. Donc à l'époque, c'était Nantes pour le Poitou-Charentes. Aujourd'hui, c'est Bordeaux qui est l'agence régionale de santé, qui est chef de file interrégional et qui garde les centres de décision à Bordeaux, les questions d'évaluation, de prospective. Parce qu'il y a une répartition. Alors là, bon, la carte est très mauvaise. Je vais peut-être me référer un petit peu à mon texte. Parce que, alors, si vous voyez ce pointillé rouge, il y a deux, ça intéresse Poitiers, parce qu'il y a deux plateformes, une plateforme nord et une plateforme sud, qui ont été mises en place sur la grande région pour la santé. Et la plateforme nord est à Limoges et la plateforme sud est à Bordeaux. Par contre, Poitiers a gardé, par exemple, la formation des travailleurs sociaux, les côtés d'enseignement et de formation. Là, vous avez une répartition des missions avec peut-être un marchandage, en tout cas une négociation, avec évidemment les fonctions capitales qui ont été gardées par Bordeaux, notamment les centres de décision. D'abord la direction générale. C'est Gilles qui disait le bureau et le directeur. Bon, ben, le bureau, c'est le QG, c'est clairement Bordeaux. Le directeur général, c'est Bordeaux. Les fonctions stratégiques, décisionnelles et prospectives. Je ne lis pas le texte, mais c'est ce qui est marqué dans le document de la préfecture de région qui fixe la nouvelle répartition des missions et dévolue à Bordeaux. Voilà. Donc, d'abord, je vous remercie de votre attention. Et j'ai mis quelques questionnements en ouverture, qui sont quand même quelques petits résultats. Nous avons assisté historiquement à une déconcentration et une décentralisation. Et maintenant, nous assistons à une reconcentration, c'est-à-dire que l'État veut reprendre la main. Il passe aussi d'un rôle d'animateur à de nouveau un rôle d'arbitre. Enfin, je le développerai plus dans l'article. Donc, contrairement à beaucoup d'autres choses où il y a un désengagement de l'État, dans ce domaine-là, il y a un retour de l'État. Le choix du handicap rare, c'est un banc d'essai, c'est un laboratoire. Les alternances droite-gauche n'ont absolument pas impacté cette expérimentation, c'est-à-dire que la droite comme la gauche a poursuivi dans le même sens de l'organisation intégrée, ce qui est intéressant aussi à chercher pourquoi cette politique-là a fait consensus en dépit des alternances politiques. Le choix donc de la méso-échelle qui nous intéresse en tant que géographe aussi, et aussi au niveau de l'administration publique. Pourquoi la méso-échelle ? Parce que le handicap rare, c'est une distribution socio-spatiale où il y a très peu de gens concernés. La surdicécité, par exemple, en France, c'est 6 000 personnes sur tout le territoire national, dom-tom compris. Donc le niveau départemental et local n'est pas pertinent pour traiter une telle rareté. Et d'un autre côté, le niveau national est trop loin de l'usager. Donc on a trouvé un niveau interrégional qui semble en tout cas concilier l'exigence de proximité et l'exigence de technicité. Il y a certaines MDPH comme en Lozère où il y a beaucoup de postes qui ne sont pas pourvus parce qu'on ne trouve pas les emplois qualifiés pour les... Parce qu'en France, on fait des boîtes qui sont identiques, qu'on soit en Lozère. C'est un département que je connais un peu, c'était celui de mon père, et à Paris ou à Marseille ou à Lille. Donc effectivement, ça crée des problèmes, ce n'est pas très adapté. Donc là, il y a le choix d'une méso-échelle qui est en laboratoire. La crainte des grands acteurs associatifs devant le risque d'être mangé, que le petit social soit mangé par le grand loup sanitaire. Et puis la question quand même sur laquelle je veux terminer, qui est celle de la démocratie sanitaire et sociale, c'est-à-dire de la place du service rendu aux personnes en situation de handicap et à leurs familles. Et l'évaluation de tout ça dépendra du plus ou du pas plus que ces choses-là impacteront sur le service rendu aux personnes en situation de handicap.
Merci Serge pour cette belle intervention sur les contradictions ou les tentatives d'articulation entre territoires de santé et demandes des citoyens sur une thématique qu'on étudie très très peu, l'handicap rare, mais dont tu es un spécialiste depuis longtemps. On va se prendre un petit temps de questions-réponses avant une petite pause, si vous le voulez bien. Ça va, à vous de travailler, d'être acteur de cet après-midi. Ne soyez pas que spectateur. Hein. Il faut les grandes transformations, elles concernent tout le monde. Hein. Donc, vous êtes partie prenante de cette grande région, vous aussi. Est-ce qu'il y a des prises de parole, des compléments aussi de des compléments à apporter par tel ou tel de nos trois intervenants de cet après-midi? Oui. Oui, mais on enregistre. Donc,
Oui, une question pour Monsieur Sozo. Je voudrais savoir, parce que vous avez évoqué donc Brouage et le fait qu'elle avait été utilisée comme siège en partie d'une partie de la marine pendant un temps. Je voudrais savoir quel temps effectif ça a été, parce qu'après vous avez dit qu'elle a été qu'à cause de l'envasage, si j'ai bien compris, ça a été redélocalisé vers Bordeaux plutôt. Je voudrais savoir quel temps effectif en fait ça a été utilisé comme, comme siège d'une partie de la marine.
Sur le plan juridique, Brouage disparaît des tablettes au moment où on fonde Rochefort en 1666. Donc il y a un transfert on va dire des institutions de la marine de guerre d'un point vers l'autre, mais en réalité, Brouage donc est choisi pour être le point d'appui de la politique navale de la France au moment où on y installe l'amirauté, donc en 1587, et on peut considérer qu'au terme du règne de Richelieu, c'est fini. Donc 1642, 1643, donc il suffit de faire le calcul, ça fait un gros demi-siècle, quoi, au cours duquel Brouage est la capitale navale de la politique maritime du royaume. Et sur le plan commercial, Brouage va continuer à accueillir des navires, mais qui sont des navires de petit gabarit qui viennent chercher du sel. Et ça, ça va durer jusque dans les premières décennies du XVIIIe siècle. Mais la période au cours de laquelle l'institution maritime, marine de guerre, est présente à Brouage, c'est un gros demi-siècle environ.
D'autres demandes, précisions, questions complémentaires? Sinon, Thierry, effectivement, il pourrait parler de Brouage pendant tout l'après-midi. Mais oui. Bon, on s'écarterait, on serait dans le sujet, mais... Ah.
J'ai une question pour M. Bernard par rapport aux associations qui aident les personnes en situation de handicap. Est-ce qu'il y a une mise en... Moi, j'avais entendu parler d'une mise en compétition, en fait, en tout cas le souhait de l'État d'une mise en compétition des différents acteurs associatifs, donc entre les grandes structures et les plus petites, notamment dans celles qui sont... productrices d'artisanat ou en tout cas qui sont productrices de biens matériels. Voilà, j'aimerais savoir si vous avez des éléments de réponse.
Oui, j'en ai plein. Mais, en fait, il y a comme un mano à mano entre l'État et les grandes associations. Si vous voulez, le modèle social, c'est comme un jeu d'orgue en France, contrairement par exemple au Québec ou ailleurs où on est plus dans des transversalités. Donc il y a comme il y a à la fois des jeux d'alliance, mais aussi de concurrence entre les grands acteurs associatifs et l'État, pour des raisons de rationalisation de choix budgétaires, veut éviter les doublons. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un demande un investissement pour faire une piscine thérapeutique, l'État veut regarder s'il n'y en a pas une pas loin, si on peut mettre un mutualisé. En fait, c'est tout à fait banal. Et donc, maintenant, il y a des nouveaux systèmes, des appels à projets. Ce ne sont plus les associations qui disent « Ah ben tiens, j'ai tel et tel projet, je vous le soumets pour demander de suivre. » Mais c'est la politique régionale de l'ARS ou du département qui dit « Nous avons besoin de telle et telle chose et nous lançons un appel à projet à l'ensemble des acteurs associatifs. » C'est ce que je pense on appelle la mise en concurrence, c'est-à-dire qu'autrefois, on déposait son projet. Aujourd'hui, eh bien, effectivement, il y a le besoin qui est établi par l'autorité publique, quelle qu'elle soit, et il y a effectivement, une forme de mise en concurrence, appel à projet, Et c'est, voilà, après, il se passe tout ce qui se passe quand il y a des appels à projets, les ouvertures de plis, les jeux sains ou malsains qu'on connaît de manière générale. Mais voilà ce qu'on appelle la mise en concurrence, c'est-à-dire qu'il y a un renversement. Ce ne sont plus les grands acteurs, je dis les grands parce que pendant longtemps, c'est les grands acteurs associatifs sont presque plus importants que, je vais dire, que deux ou trois inspecteurs. Parfois, ils pèsent très lourd. Hein, et voilà. Donc, effectivement, vu du côté des associations, ça râle. Vu du côté du citoyen, ben, chacun lit les choses comme il veut. Mais en tout cas, c'est une volonté de rationaliser, de retrouver les complémentarités, de mutualiser ce qui est mutualisable, de faire des économies. Je ne sais pas si je vous ai...
Merci. Est-ce qu'il y a une dernière remarque ou question ? Oui.
Moi, j'ai une question pour Monsieur Kerr. Vu qu'avec la loi, l'État s'est complètement désolidarisé, est-ce que ce ne serait pas plus pratique, en fait, que chaque ancienne région garde un statu quo et continue à gérer de son côté, avec juste une surveillance un petit peu de loin pour voir, en fait, si tout roule, plutôt que d'essayer de faire en sorte que chaque nouvelle région mutualise tout, surtout là où il y a trois fusions, où il y a des fusions de trois anciennes régions?
Je suis pas bien sûr d'avoir compris votre point de vue. Les anciennes régions, elles n'existent plus. Donc on ne peut plus mener des politiques différentes sur les territoires des anciennes régions. Ce que je voudrais noter par rapport à ce que vous dites, c'est que l'État a mis en place une loi qui oblige les régions à faire quelque chose, mais l'État n'a pas dit ce qu'elles devaient faire. On oblige à faire, mais on ne spécifie pas ce qu'elles doivent faire. Et donc chaque région, enfin chaque nouvelle région, s'est emparée du cadre et met ce qu'elle veut à l'intérieur, regroupe l'économie sociale et solidaire, soit avec l'innovation sociale, soit avec l'artisanat, soit avec les PME, etc. Mais c'est un cadre général, on les oblige à faire quelque chose en matière d'économie sociale et solidaire, mais il n'y a aucune obligation plus précise par rapport à ça. Et donc chaque région s'empare de ce cadre-là et met ce qu'elle veut dans le cadre. Mais de là à mener des politiques différentes sur les anciens territoires, dans les régions fusionnées, hein, je parle, peut-être un élément de réponse, quand on regarde les régions qui n'ont pas fusionné, qui sont restées sur le même périmètre et où il n'y a pas eu de changement de majorité, notamment par exemple la Bretagne, où là on a vraiment quelque chose de stable et on peut voir l'effet de la loi de 2014 et l'effet de la loi de 2015, puisque c'est la même majorité socialiste et le périmètre n'a pas changé. Ce qui se passe en Bretagne, c'est qu'en gros, on a continué les mêmes politiques. Simplement, ils n'ont pas fait de nouveau schéma régional pour le moment. Ils ont gardé l'ancien. Et l'ESS a conservé exactement la même place et c'est les mêmes actions qui sont demeurées. Mais dans les autres régions, à la fois les périmètres et les majorités ont changé. Donc c'est assez difficile pour le moment d'analyser les choses. Simplement, il est impossible aujourd'hui... Alors, je prends un exemple sur la Nouvelle-Aquitaine. De manière transitoire, on a conservé quelques politiques qui avaient une base des anciennes régions. Celui que je connais bien, c'est le microcrédit Poitou-Charentes, le microcrédit social Poitou-Charentes qui existait depuis 2008 en Poitou-Charentes, a été conservé à titre transitoire sur 2016 et 2017 dans la Nouvelle-Aquitaine, et ça a lieu que sur les 4 ex-départements de Poitou-Charentes. Mais à ma connaissance, je ne sais pas ce que ça va devenir en 2018. Soit ça disparaît complètement, soit c'est étendu au nouveau territoire. Mais il n'est pas pour le moment envisagé de rendre permanent une politique qui serait fondée sur un ancien sous-territoire. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question.
Merci à vous trois. On va changer de programme en fait et d'organisation parce que Jérôme doit partir à 16h. Donc on va inviter Jérôme et Olivier à intervenir maintenant. Vous gérez vos postes techniques de manière individuelle. Je suis désolé. D'ailleurs, on fera la conclusion de Pascal dans la foulée, je pense. Et comme ça, on vous libère un peu plus tôt. Il y aura un rafraîchissement juste à la fin par la suite. Merci de votre compréhension.
Oui, alors bonjour, on m'entend, c'est bon? Ok. Donc en fait, on a changé, pas par provocation, un peu le titre de notre présentation en fonction des conclusions de notre travail. Et pour être en lien aussi avec un ouvrage collectif qui a été publié par André Thor et puis Sébastien Bourdin et qui s'appelle Le Big Bang territorial, la réforme des régions en débat, qui était le fruit d'un, la conséquence d'un travail collectif sur un blog et qui a été ensuite publié sous la forme d'un livre électronique et qui nous a beaucoup servi pour alimenter la réflexion qu'on a pu conduire autour de ce Big Bang territorial et de la fusion des régions, qu'on a interrogé pour se demander si c'était un simple conformisme au modèle à la mode. Et en fait, l'idée là-dedans, c'est de se dire, est-ce que on a beaucoup parlé de mode, on n'est pas les seuls à en parler depuis le début de la journée, ça ne pourrait pas être utile, le phénomène de mode, pour comprendre les dynamiques engagées à l'occasion de la réforme qui a été portée par la loi NOTRe. Et puis... je vais y aller un peu plus vite, sachant qu'en fin de compte, on l'a vu depuis le début de la journée, la philosophie de l'État là-dessus, c'était de créer des régions, des entités de taille qui soient suffisamment dotées de moyens en termes de finances, de compétences, de telle sorte à en faire des acteurs majeurs du développement économique. C'est toujours le discours qui porte un petit peu cette réforme. Et puis, les différents auteurs, ils ont pu y voir soit une orientation idéologique, soit du dogmatisme pur et dur, un opportunisme politique à un moment donné. En sciences politiques, on a interrogé cette réforme selon ce prisme. Ou alors une pensée d'économie publique territoriale plus ou moins aboutie. Les questions qui sont sous-jacentes à ça, c'est est-ce que c'est, cette réforme, c'est un choix rationnel, un assemblage d'idées reçues, ou alors un simple opportunisme politique. Et en fait, nous, on s'est posé la question de, en fait, si le moteur de cette réforme territoriale répondait plus fondamentalement au phénomène de mode tel que le management, au sens général du terme, le management des organisations, sait en produire depuis son institutionnalisation au milieu du XXe siècle. Et la question de fond de tout ça, c'est de quel mode de management public ce Big Bang territorial serait-il le nom, et par extension, de quel modèle en fait ?
Alors, pour présenter les choses de manière méthodique, dans un premier temps, je vais vous indiquer quel est le cadre théorique sur lequel nous nous sommes fondés. Il y a un théoricien majeur des modes managériales qui s'appelle Abrahamson, qui a publié essentiellement en 1991 et 1996, et qui fait la différence, donc qui étudie les modes managériales, et qui fait la différence entre deux types de modes. En tout cas, le vocabulaire français francophone couvrirait deux termes distincts en anglais, qui sont fad et fashion. Donc fad, on pourrait le traduire par tocade ou par passade. Il s'agit de ces comportements collectifs qui émergent à l'occasion comme ça d'une conjonction fortuite entre des forces qui facilitent son apparition et sa diffusion. Elle se manifeste surtout en période de forte incertitude, et à ce moment-là, comme les gens ne savent pas quoi faire, sont un peu désarmés, ils se portent, ils se surinvestissent de manière affective dans cette technique. Alors, avec bien évidemment tout ce qu'il faut d'accompagnement marketing, d'accompagnement par les cabinets de conseil, ainsi de suite. Et le vecteur, à ce moment-là, c'est typiquement l'imitation. Alors, parmi les modes managériales qui ont marqué les dernières décennies, il y a eu l'organisation apprenante. Donc, vous avez eu cette formalisation de l'organisation apprenante dans la deuxième moitié des années 1990 jusqu'à peu près au milieu des années 2000. Et c'est un phénomène de mode, on en parle moins aujourd'hui, d'autant quand même que l'anthropomorphisme d'organisation apprenante posait énormément de questions conceptuelles, vous vous en doutez. Autre volet de la mode, c'est le volet fashion, donc, c'est-à-dire la mode qui dure. Et là, Abrahamson nous dit on n'est absolument pas sur le surinvestissement affectif, sur la tocade, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond qui répond à un mécanisme de marché. Le marché de l'offre et de la demande de connaissances managériales. Et donc, sur ce marché, il y a des tendances de permanence, il y a des tendances où l'on demande à évoluer, où l'on demande à renouveler. Quand ces demandes de renouvellement deviennent assez fortes, à ce moment-là, certains porte-drapeaux ou porte-paroles vont s'emparer de cette demande et essayer de proposer une solution, entre guillemets, innovante au problème. Et donc là, les modes durent. Alors, elles ne durent pas dans le même degré, mais elles laissent des traces. Hein. Il y a une espèce de rémanence de ces modes. Hein. Voilà, comme d'ailleurs, Abrahamson fait un parallèle avec la mode vestimentaire. Hein. Donc, c'est assez intéressant en se fondant notamment sur d'autres travaux. Ce que je voudrais préciser par rapport à tout ça, c'est que la mode, c'est quelque chose qui se diffuse, et les modes managériales se diffusent par des canaux très spécifiques. Alors, je ne suis pas sûr que vous arriviez à lire facilement le schéma qui apparaît à la droite de l'écran, donc je vais préciser des choses de ce point de vue-là. Dans le domaine du management, les modes sont véhiculés par les cabinets de conseil, les écoles de commerce. Alors, quand on dit école de commerce, dans le domaine du management public, il y a aussi les écoles d'administration publique, hein, toutes les écoles d'administration publique qui relaient ces phénomènes de mode. Et une fois que tout cela, la mayonnaise commence à prendre, il y a souvent des gourous qui émergent pour incarner ces modes, en devenir vraiment les porte-drapeaux. Et puis, les médias aussi se font le relais du discours des gourous. Ça a été notamment le cas, et c'est toujours le cas, de ce que l'on appelle le courant du New Public Management. Le New Public Management, c'est un courant qui a émergé dans les années 1970 et qui porte un credo qui est toujours d'actualité, selon lequel il faut transposer les méthodes du privé dans le public pour que le public fonctionne mieux. Sous-entendu, hein, ça on ne le dit pas, mais c'est pour que le public fonctionne mieux.
C'est si bien connu que dans le privé, il n'y a jamais de faillite.
Ben non. Voilà. Donc, ça, on y reviendra. Vous l'avez compris, hein, notre discours est plutôt critique et polémique sur cette approche-là. Et nous sommes assez critiques aussi vis-à-vis de la manière dont la réforme a été menée, dans la mesure où, ben voilà, elle s'inspire complètement de ce courant qu'est le New Public Management. Alors, à cet égard, pour qu'une mode se diffuse, bien sûr, elle doit être portée par des comportements mimétiques. Hein, il y a des gens qui imitent. Alors, la théorie néo-institutionnelle en sociologie, hein, avec Meyer Erowan, DiMaggio et Powell, ont expliqué qu'il existe des formes d'isomorphisme mimétique, hein, qui amènent les gens à se conformer à un seul et même comportement, à converger vers un seul et même comportement, justement en période d'incertitude. Sauf que ces théoriciens n'ont jamais interrogé la notion de mimétisme. Alors, avant d'examiner plus en profondeur la réforme, examinons le New Public Management, et en particulier l'esprit de la LOLF, à travers ces mécanismes mimétiques. Il se trouve que l'une de nos collègues, une très bonne collègue de Montpellier, présentée il y a quelques années, en 2012, aux Journées des IAE, ici même à Poitiers, un article qui, je pense, fera date sur cette question-là, puisqu'elle a essayé de décomposer les différentes catégories, de proposer une taxonomie, si vous voulez, des mimétismes, des modalités de mimétisme possibles. Elle est allée chercher dans différentes disciplines pour essayer d'expliquer cela. Le premier mimétisme qu'elle souligne, c'est le mimétisme que l'on dira piagétien, c'est-à-dire le mimétisme d'apprentissage. Hein, celui qui apprend imite le sachant, entre guillemets, et adapte petit à petit, hein, par des schèmes d'adaptation ou d'accommodation, pour reprendre les termes piagétiens, le schème qu'il a finalement assimilé par imitation. Appliqué à la LOLF, par exemple, appliqué à ce qui se passe chez nous aujourd'hui, ce serait l'idéal à l'extrême rigueur. On adopte un schéma et on l'adapte à notre contexte. Pourquoi pas ? On pourrait penser que des pratiques comme la GBCP, hein, aujourd'hui, relève de ce mécanisme d'adaptation. Si vous vous rappelez ce qui s'est passé en comptabilité publique, on a eu une comptabilité de trésorerie, puis on a eu une comptabilité d'engagement, et aujourd'hui on essaie de faire de la comptabilité de trésorerie, de la comptabilité d'engagement, on essaie de rétablir l'équilibre, parce qu'on s'est rendu compte que comptabilité de trésorerie toute seule, ça ne marchait pas bien, et comptabilité d'engagement toute seule, ça ne marchait pas bien. Donc pourquoi pas, hein. Ceci dit, ce n'est pas ce qui arrive toujours, hein, ça c'est, C'est malheureux à dire. Il y a d'autres formes de mimétisme, comme le faux mimétisme, celui de Bates, hein, le mimétisme du caméléon, celui qui, pour se fondre en période d'incertitude et de menace dans l'environnement, va singer les autres pour se faire oublier. Hein. Et donc là, vous voyez très bien où je veux en venir avec la culture du chiffre qui se développe dans nos organisations publiques, au point où voilà, on crée une espèce de brouillard de chiffres autour de nos probables ou possibles vicissitudes. Troisième modalité de mimétisme, le mimétisme colonisateur, ou plutôt le mimétisme du colonisé. Le colonisé admire le colonisateur et se conforme à lui, hein, tout en nourrissant un sentiment de culpabilité, un complexe d'infériorité, un sentiment de culpabilité vis-à-vis du colonisateur. Mais bien évidemment, nous sommes dans un secteur public qui, par sa fiscalité, pèse tellement sur le secteur privé qu'il va falloir imiter le secteur privé pour faire aussi bien. Vous l'avez compris. Hein. Dernier point, et pas le moindre, la nature mimétique de l'homme. Et ça, c'est René Girard qui l'a conceptualisé avec la notion de désir mimétique. Autrui possède un objet, cet objet je le désire follement, donc je vais me conformer à autrui pour posséder le même objet. Donc j'éprouve une espèce d'amour immodéré pour autrui et pour l'objet d'autrui en même temps que je le déteste parce que je me mets en concurrence avec lui. Et là, c'est un peu ce que nous faisons dans le secteur public quand nous nous engageons dans des politiques de downsizing en pleine période de crise. Voilà, nous allons à outrance vers des choses qui risquent de ne pas redresser la situation, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Donc, la mode fonctionne sur la base de mimétisme, et vous l'avez compris, ce qu'il y a derrière tout ça, c'est qu'il y a des modèles. Hein, dans le désir mimétique, autrui est un modèle pour moi. Hein, dans le mimétisme colonisateur, le secteur privé et le colonisateur du secteur privé, il est le modèle du secteur public, ainsi de suite. Donc, nous avons un irrépressible besoin de modèles, et en particulier dans le secteur public. En ce qui concerne la réforme territoriale, puisqu'il y a un Louis XIV idolâtre dans la salle, rappelons-nous la phrase de 1655. La phrase. Non, j'assume aussi. La phrase de 1655, l'État, c'est moi. Aujourd'hui, on a l'impression que l'État, c'est surtout pas moi, et que l'État, c'est, pour paraphraser Sartre, c'est les autres, et en particulier ceux du secteur privé. Donc il faut s'interroger sur cet aspect-là, et lorsque nous avons examiné la réforme territoriale, et en particulier la fusion des régions, nous avons procédé en trois temps. Nous avons d'abord mis en évidence le temps de l'initiative stratégique et ou politique, c'est-à-dire le temps où l'exécutif s'empare du projet et prend la décision, puis le temps parlementaire et le temps de la négociation, de la décision et de la négociation décentralisée. En ce qui concerne l'initiative stratégique, nous nous sommes rendus compte que là, il y a des modèles à la mode et que ces modèles ont irrigué la décision, ou du moins la justification de cette dernière. En ce qui concerne le temps parlementaire, le temps de la décision, la négociation décentralisée, nous avons plutôt le sentiment que l'on se livre à la mode des modèles, c'est-à-dire qu'on cherche des modèles pour essayer d'unifier et de légitimer ce que l'on est en train de faire. Voilà. Donc, nous allons essayer d'abord d'examiner le temps de l'initiative stratégique et politique. La référence au secteur privé, même si elle est parfois implicite et très forte, hein, dans ce qui se passe au moment de la réforme territoriale. Hein. Lorsqu'on vous dit qu'il faut créer des grands pôles régionaux susceptibles d'avoir un poids dans l'ensemble européen, qu'on vous parle de concurrence régionale, que l'on vous parle de pertinence des périmètres, ainsi de suite, on est dans un langage qui est purement managérial et managérial privé. Donc, dans le NPM, il y a trois des sept piliers doctrinaux du NPM qui se retrouvent dans cette décision. Le premier, c'est l'idée d'autonomisation, ce que l'on appelle en anglais l'empowerment, hein, c'est-à-dire le fait de donner le pouvoir à plus petit que soi, des collectivités. Ensuite, l'application de méthodes issues du secteur privé, ça j'en ai déjà parlé. Et puis la rigueur et l'efficience dans l'utilisation des ressources. Donc ces trois piliers se retrouvent dans la décision de rapprochement des régions. Bien sûr, on a bien compris que le contexte politique n'était pas facile, qu'on avait évoqué dans un premier temps la disparition des départements, mais pour cela, il y avait une décision politique à prendre, c'était celle de passer devant le Congrès. Or, le risque devant le Congrès étant grand, l'exécutif n'a pas voulu le prendre. Donc, il a fallu aussi justifier la décision du regroupement des régions, et c'est en se référant au principe du New Public Management que l'on y est parvenu. Donc, on va voir que les décisions de l'exécutif se sont fondées sur un impératif, celui de la sobriété budgétaire, que les modalités de mise en œuvre, c'était tout simplement singer la mode des fusions et acquisitions qui a irrigué le secteur privé jusqu'à la crise de 2007-2008, mais dans le secteur privé, ça s'est arrêté. Et enfin, la méthodologie de gestion de la réforme est elle aussi une méthodologie issue du secteur privé avec le management by objectives, management par objectif, mise en place en 1954 par Peter Drucker. Alors, pour ce qui concerne la sobriété budgétaire, il est quand même paradoxal de se dire que c'est au moment où le FMI et la Commission européenne étaient en train de relâcher la pression sur la sobriété budgétaire que l'État français s'engage dans une démarche qu'il vend, en tout cas dans un premier temps, comme une démarche qui va servir la sobriété budgétaire. Donc on a essayé de comprendre ce paradoxe. La théorie néo-institutionnelle dit que la conformation des comportements se crée en fonction de trois isomorphismes. L'isomorphisme mimétique, sur lequel je ne reviendrai pas, je vous en ai déjà parlé, l'isomorphisme coercitif et l'isomorphisme normatif. L'isomorphisme coercitif, bien, soyons clairs, les contraintes réglementaires étaient bien moins fortes et les pressions issues de l'Europe et du FMI étaient bien moins fortes au moment où la réforme a été mise en place. Donc, d'où vient, mais ce que nous disent DiMaggio et Powell, c'est que les contraintes peuvent aussi émaner de l'opinion. Et là, l'opinion a une image absolument déplorable de ce que l'on appelle le millefeuille territorial, complexe, pléthorique, coûteux. Donc il fallait aller dans ce sens. D'accord ? L'isomorphisme normatif, lui, appelle à la conformité au mythe rationnel. On devient des bons élèves, à l'instar de ces beaux exemples que sont le Canada, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, et j'en passe. Donc, voilà, la sobriété budgétaire, elle vient de là. Deuxième idée, la mode des fusions-acquisitions. Les fusions-acquisitions ont été à la mode depuis... elles sont à la mode depuis les années 1970, on va dire, dans le secteur privé. Ghosn, un des auteurs clés sur cette question-là, a publié un ouvrage au début des années 2000 pour dire qu'il y avait eu 5 vagues de fusion-acquisition jusqu'en 2001 et que ces fusions-acquisitions, notamment les dernières vagues, étaient parmi les moins productives. Il a travaillé sur 12 000 transactions et il a mis en évidence que sur ces 12 000 transactions, les actionnaires avaient perdu à peu près 240 milliards de dollars de valeur sur leurs titres. Donc, les fusions-acquisitions ne sont pas quelque chose qui se justifie nécessairement dans le secteur public, dans le secteur privé. En tout cas, elles sont très critiquables. Donc, dans le chapitre que nous avons rédigé, nous rappelons notamment que dans le secteur pharmaceutique, dans le secteur bancaire, elles ont produit des effets qui n'étaient pas désirables. Dans le secteur bancaire notamment, on s'est retrouvé en 2007 avec des banques qui étaient, en 2008, des banques qui étaient tellement grosses qu'on les a qualifiées de « too big to fail ». Attention, ça ne voulait pas dire « trop grosses pour échouer », ne traduisez pas mot à mot. Ça voulait dire « on ne pouvait pas se permettre qu'elles fassent faillite parce que sinon c'était le système entier ». Qui faisait faillite.
C'est le cas de AIG dans la crise des subprimes.
Voilà. Alors, dans la décision de l'exécutif, dans un premier temps, on a repris le vocabulaire et tout le discours de promotion des fusions-acquisitions avec deux grands arguments majeurs, les économies d'échelle et la taille critique. Alors les économies d'échelle, bon, les experts se sont penchés sur la question et ont vite mis en évidence que, au moins dans un premier temps après la réforme, ces économies ne se produiraient pas. Il a été mis aussi en évidence le fait que tant qu'il y aurait un système étatique décentralisé aussi important que le nôtre, eh bien, les économies d'échelle seraient difficiles à réaliser. Donc du coup, on s'est reporté sur le recours incantatoire à la taille critique. Alors à cet égard, je vous cite les trois arguments développés par le Premier ministre Bernard Cazeneuve le 16 juillet 2014 à l'ouverture des débats sur la loi NOTRe. Et voilà ce qu'il dit. Donc parmi les trois arguments, ne pas laisser les régions les plus modestes rurales à la traîne, simplifier l'organisation territoriale pour éviter la dilution des compétences, conférer aux régions un périmètre suffisant pour accueillir des compétences nouvelles et peser dans le paysage européen. Bref, on est complètement dans l'argumentaire appliqué aux régions de la taille critique. Alors, le terme de taille critique est d'ailleurs utilisé à la suite du discours du Premier ministre par un des rapporteurs pour avis. Ça, c'est pour information. Je ferai très court sur le MBO. Le MBO a été mis en place, je vous l'ai dit, a été en tout cas conceptualisé par Drucker en 1954. C'est un système de délégation par objectif. La gestion par objectif, ça a été une mode folle. Dans les années 1980, tout le monde faisait du MBO. C'est allé croissant jusqu'à dans les années 1980. Aujourd'hui, cette méthode-là est en train de perdre de la vitesse dans le secteur privé, mais c'est celle que nous avons relayée avec la LOLF, notamment avec les notions de contrat d'objectifs et de moyens, qui sont un avatar du MBO de Peter Drucker. Et là, la manière dont la réforme est gérée, c'est la même chose. C'est une procédure top-down avec, bien sûr, une autonomie accrue à la base opérationnelle. C'est-à-dire qu'à la base opérationnelle, on vous donne des objectifs et puis débrouillez-vous. Il y a un peu de ça quand même. On laisse un petit peu les régions se mettre d'accord, si ce n'est s'entretuer, ça dépend des configurations. Voilà donc ce que je pouvais vous dire sur l'initiative stratégique, et nous embrayons sur les débats parlementaires que nous avons commencé à éplucher. On n'a pas terminé parce que entre les invectives, les discours fleuves, etc., il faut arriver à trouver des idées, mais il y en a des très bonnes et Olivier va vous en faire part.
Donc en ce qui concerne les débats parlementaires, on a deux choses qui apparaissent assez fortement. C'est d'une part une unification du discours de légitimation de la décision parlementaire, et puis une polarisation des politiques de dénomination autour de modèles bien distincts, qu'ils soient historiques, neutres, identitaires, etc. Et là, on revoit apparaître un isomorphisme mimétique, puisque si d'autres ont fait leur preuve en faisant cela, il faut faire comme eux. On est dans le bon droit de faire comme eux. Et notamment dans une tribune signée dans Le Monde par André Valigny, qui était le secrétaire d'État à la réforme, il nous dit « Les grands pays d'Europe ont fait ou sont en train de réaliser leur réforme territoriale. La France ne pouvait plus attendre. » Voilà, tout est dit dans cette phrase. Cette tribune du Monde, pour moi, révèle tout l'esprit des débats qui vont suivre derrière. Ceci dit, il faut une argumentation simpliste et audible. Et donc, on va légitimer et focaliser tout ça sur le discours du PIB par habitant, formidablement déconstruit ce matin par Emmanuel et Olivier. Et puis le désir d'exemplarité, il faut qu'on soit aussi bon que les autres, avec des porte-paroles. On se demandait qui étaient les gourous de cette réforme, en fait. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que Vels et Davzy sont peut-être les gourous de cette réforme? Ça serait intéressant à étudier. Mais tout ça est à mettre en opposition avec des contraintes qui sont, elles, bien réelles, et notamment de ne pas avoir de pas être mis en minorité au Parlement, donc de ne pas avoir à passer devant le Congrès, au bout du compte. Et donc, on ne peut pas démonter les régions existantes, parce que si on change le périmètre, alors on est obligé de passer devant le Congrès, parce qu'il faut une réforme constitutionnelle. Et donc, on va effectivement tenter ensuite des négociations décentralisées avec des références historiques, essayer de voir des neutralités, puis trouver des identités qui justifient un peu tout ça. Le temps parlementaire, il va venir jusqu'à l'option du regroupement régional, qui va être finalement l'option qui va être retenue avec différentes versions, puisqu'on va passer pour la région Aquitaine, Poitou-Charentes, d'un regroupement avec le centre, à finalement aboutir à ce qui va être voté avec la création de la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes, future nouvelle Aquitaine, et sans démanteler donc une solution qui n'émantèle pas les régions existantes, si bien que les premières cartes proposées ne sont pas retenues, et donc on va assister à une sorte de tambouille territoriale qui va arriver finalement à une décision de l'Élysée qui ne correspond à aucune des négociations et à aucun des débats qui aura lieu dans l'Assemblée. Mais André Valigny, encore lui, nous donne la bonne réponse à tout ça, puisqu'il nous dit dans cette même tribune du Monde que la réalité est d'une part qu'il n'y a pas de carte idéale et qu'aucune n'a jamais fait l'unanimité. Pour enchaîner derrière, j'ai tronqué la phrase, vous la verrez dans l'article, le chapitre final, sur des références historiques qui ne seraient pas justifiées, etc. Paradoxalement, on pourrait s'interroger sur quelles logiques vont primer, sachant qu'il y a une question qui est toujours assez importante, c'est la question de la métropolisation, qui est quand même, même si elle est éliminée, elle est quand même au cœur des débats, et avec deux comportements sur la métropolisation, puisqu'on va avoir soit une métropolisation qui va être un attracteur, c'est le cas en Nouvelle-Aquitaine ou dans la région centre, avec le poids de Bordeaux qui doit attirer tout, soit au contraire une métropolisation qui va agir comme répulseur, et là on va le voir dans Languedoc-Roussillon, l'opposition Montpellier-Toulouse, qui va avoir quoi, et même dans le nom de la région, et Rhône-Alpes et Auvergne avec l'opposition Clermont-Ferrand, Lyon, sachant que déjà en Rhône-Alpes il y avait cette fameuse opposition aussi de Grenoble-Lyon en interne qui n'était pas si simple à gérer, et donc là il va y avoir des modèles qui vont émerger avec des questions locales et la présence de porte-parole et d'investissement de forme avec encore une fois le PIB par habitant qui ressort, même si certains députés, notamment on a noté une intervention de Gérard Schwarzenberg en juillet 2014 qui va demander des critères de regroupement clairs. Avec une complémentarité réelle, des affinités naturelles fondées sur une histoire commune, une absence de distance excessive entre les points de la nouvelle région ou telle autre, des critères démographiques. Ces critères n'apparenteront jamais dans les choix définitifs de la loi NOTRe. L'argument ultime étant fourni par Olivier Fernorny, député de la Charente-Maritime, qui dans l'opposition entre un regroupement avec la région centre pour la région Poitou-Charentes ou une fusion avec l'Aquitaine et le Limousin, va nous expliquer que de toute façon les entreprises ont choisi Bordeaux, donc comme elles ont fait ce choix, c'est le modèle. Les parlementaires doivent donc suivre ce choix des entreprises, non étayé par aucun fait objectif, ni économique, ni d'évaluation des flux sur économique entre les régions. Valigny de poursuivre par une justification de la réforme sur trois exigences, démocratiques, économiques et de services publics, qu'il va associer, alors là, par des transpositions qui m'échappent encore, à clarté, compétitivité et efficacité, qui sont forcément portées par la réforme. Encore, on voit bien que la diffusion des discours est assez importante dans l'étude d'un tel changement de politique publique. Et donc il va y avoir ensuite des périodes de tractation ou pas entre anciennes régions, le rôle des départements qui ne veulent pas forcément se laisser supprimer une clause de compétence générale qui leur permet d'intervenir notamment sur l'économie. On pourrait voir dans une autre étude qu'on est en train de mener comment ils vont choisir des stratégies de résistance, voire de contournement sur l'attractivité en fusionnant leur comité d'expansion économique avec les agences, les comités du tourisme pour créer des agences de l'attractivité. Il y a quand même 30 départements qui ont réussi à faire ça, alors qu'ils n'ont plus le droit de faire de développement économique. Des consultations publiques ou pas pour le nom des régions. Et on va laisser aux citoyens l'initiative du choix d'une identité en prêt-à-porter, dans lequel les références historiques sont souvent appelées. Les trois choses que j'ai pu retenir, moi, c'est un gazouillage, hein, c'est comme ça qu'on dit quand on est sur Twitter, un gazouillage de Jean-Pierre Raffarin à l'issue du choix de la réforme définitive, où il disait à propos de la réforme territoriale, le gouvernement n'a livré aucune étude quant à l'histoire, à la géographie, à la culture, aux identités de nos territoires. Et Dominique Bussereau, président du Conseil général de Charente-Maritime, Nouvelle-Aquitaine, c'est peu dire que je n'aime pas cette dénomination, très vite nous parlerons d'Aquitaine sans adjectif. @sudouest, je pense que c'est assez bien vu. Il se rétractera quelques heures après dans un nouveau tweet pour dire qu'il n'avait pas voulu dire ça. Mais bon, la permanence d'Internet fait qu'on a encore ce tweet. Sans parler d'un universitaire poitevin bien connu dans cette salle, même si je ne le dénoncerai pas, qui est farouchement opposé à la fusion et qui parlera même d'Anschluss territorial. Tout est définitivement dit alors. Donc, en guise de conclusion, en guise de conclusion, l'idée qu'on a voulu faire ici, c'est de se dire, bah, dans la Fédération Territoire, et merci à Pascal de nous inviter depuis quelques années maintenant autour des travaux, c'était de porter un regard gestionnaire, qui est peut-être un peu atypique par rapport aux gens qui font des sciences politiques, de l'économie, de la géographie, de l'histoire, et qui conforte en fin de compte que cette réforme régionale, elle semble combler un manque ou proposer un ordre sous forme d'une certaine sécurisation, qui semble compréhensible par les parties prenantes, peut-être modulo une des parties prenantes, qui est la partie prenante citoyenne, qui semble quand même un peu absente de l'intégralité de cette réforme. Elle se fonde aussi sur un modèle de développement que l'on cherche à reproduire sur l'ensemble du territoire national. Ce modèle, il a évolué au cours du temps parce qu'on est passé dans les politiques de développement économique, puisqu'on se rattache toujours au développement économique pour justifier cette réforme, du small is beautiful, le fameux district italien qui a été transposé en France par la DATAR avec les systèmes productifs locaux, où ensemble on est plus fort, l'approche portérienne des grappes ou clusters d'entreprises qui ont donné lieu à la fameuse politique des pôles de compétitivité en 2005, et pour aboutir récemment, le dernier avatar, le big is beautiful, et only big is beautiful. Peut-être que big is not so beautiful, on pourrait peut-être dire. Et donc, c'est plus qu'un acte politique fondateur mûrement réfléchi, porté par une ambition structurante. On pourrait dire que cette réforme, elle est quand même le pendant d'un certain conformisme au modèle à la mode, modèle issu du management privé, et ça c'est peut-être ce qu'on peut remarquer de plus sensible, et peut-être qu'un des travaux à faire, c'est d'essayer d'identifier qui étaient ces faiseurs de mode qui ont conduit à diffuser cette croyance collective, dont on peut s'interroger maintenant si elle sera transitoire ou non. Et en conclusion finale, on pourrait peut-être, ce regard des sciences de gestion, il pourrait aussi se dire que c'est une invitation au management public à construire une gestion qui se pense par elle-même et pour elle-même, et pas comme une simple transposition de modèles issus du secteur privé.
Merci de votre attention.
Merci. Merci. Alors, je vous rassure, vous êtes les bienvenus dans la Fédération et votre propos est bien complémentaire à tout ce qu'on a fait ce matin. Merci beaucoup à vous deux. Il va falloir que le partisan de Lanchos se désigne. Hein,
il n'est pas dans la salle.
Ah, il n'est pas dans la salle. D'accord, ça nous rassure. Parce qu'on ne parle pas comme ça, nous. Quand même.
Je dois excuser Jérôme qui doit quitter pour une réunion, mais je peux répondre à les questions si besoin. Ouais.
Et oui, on peut prendre, parce qu'on a fait un... Attends, oui, Monsieur Pierre Perrault.
Oui, je souscris assez à votre démonstration, mais est-ce qu'il ne faudrait pas la replacer dans l'épisode qui a juste précédé ce que vous analysiez, qui était la tentative du Sénat d'organiser toute une réflexion sur la suite de la décentralisation, et dont il semblerait qu'un certain nombre de ministères et Hollande lui-même aient décrété que finalement, compte tenu du vacarme, du bazar et de l'immense profusion qui ne réussissait pas à sortir de ce débat, il est justement choisi de squeezer les parlementaires, de squeezer un certain nombre de think tanks et de gens qui pensaient pour passer dans ce que vous avez dénoncé, ou en tout cas analysé comme étant à la fois des modes, du mimétisme, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un blocage sociétal ou un blocage d'idées, peut-être même un blocage tout simplement sociétal, en amont de ce que vous décrivez comme étant finalement un certain nombre de vagues superficielles qu'un certain nombre de technocrates auraient utilisées pour malgré tout faire la réforme?
Plus que des blocages sociétaux, je parierais plutôt sur des blocages institutionnels. C'est clair qu'un changement de majorité au Sénat, ça vient perturber la donne quand on veut faire une réforme publique majeure. Et donc ça décale le problème à côté. Oui. Mais c'est la conjonction de plusieurs facteurs qui conduit à ça. C'est-à-dire que c'est situé dans le temps, et je pense qu'on referait cette réforme aujourd'hui. Est-ce qu'on conduirait au même résultat? C'est pas sûr du tout. D'ailleurs, est-ce qu'elle était prévue dans un quelconque programme politique en 2012? Enfin, il me semble pas. Donc... Non, mais c'est dans les cartons depuis 20 ans, mais plus que de la décentralisation, on a de la déconcentration, mais pas de la décentralisation, pas de la vraie décentralisation avec des moyens. Je crois que c'est ce matin, Olivier disait sur les budgets, ou Emmanuel disait sur les budgets des régions, la région Nouvelle-Aquitaine aujourd'hui, c'est 2,5 milliards, 2 milliards pour une région équivalente en Allemagne, c'est 25 milliards. Bah oui, c'est pas de la décentralisation. En fait, c'est quand même l'État qui continue à dire ce qu'il faut faire.
Moi, j'avais deux petites, parce que vous insistez beaucoup sur l'idée que c'est une forme d'imitation du modèle privé. Donc, sur certains aspects, je suis assez d'accord. Enfin, c'est assez évident, quoi. Mais c'est aussi une imitation de formes d'organisation territoriale étrangère, mais qui sont, moi, ce que je trouve toujours assez rigolo, c'est que si on regarde, il y a la loi métropole, soutien aux métropoles, donc à quelques grosses agglos. Et là, mon sentiment, c'est que c'est Paris qui regarde Londres en disant, voilà, qui regarde les villes globales. On se tourne vers l'Angleterre, etc. Et puis, dans l'autre cas, c'est il faut fusionner les régions. Et là, le modèle, c'est l'Allemagne qui a une structure urbaine ultra équilibrée, qui n'a pas d'énormes métropoles, quoi. Donc, c'est aussi assez rigolo comment on imite, finalement. Enfin, c'est une hybridation de modèles contradictoires.
Oui, c'est une décision mimétique géographique, là, en fait, quelque part.
Hein. Donc, c'est pas que du mimétisme visé. Enfin, je pense qu'en termes de fonctionnement au quotidien et de gestion de l'activité publique au quotidien, c'est vraiment, effectivement, le new public management, quoi. On imite le privé. Mais après, il y a en plus, en termes d'organisation des pouvoirs, disons, dans un pays, on regarde aussi comment l'organisation territoriale est faite à l'étranger.
Enfin, oui, mais on le transpose en évitant de transposer ce qui pourrait faire perdre le contrôle de l'État. Notamment la fiscalité. C'est-à-dire, comme on n'autorise pas ces nouvelles entités de plus en plus grosses à avoir une fiscalité propre, autonome, qui est fixée et qui vienne se substituer à une fiscalité nationale, quelque part, on ne va pas au bout de ce désir d'imiter les autres. C'est-à-dire qu'on veut les imiter, mais tout en voulant garder le contrôle de la part de l'État, qui, de toute façon, de Paris, selon le bon vieux principe jacobin et colbertiste, les deux à la fois, veut tout contrôler, quoi.
Et puis la deuxième remarque, je ne sais pas si tu peux remettre juste la dernière diapo, c'était la diapo juste avant là. Quand vous dites reste maintenant à identifier les faiseurs de mode, moi il me semble qu'on pourrait peut-être s'appuyer, alors c'est peut-être des choses ça relève de choses qu'on voit en économie, peut-être moins en gestion, je ne sais pas, mais c'est économie des conventions en fait. C'est-à-dire il n'y a pas un acteur il ne s'agit pas de trouver celui qui a, je pense que c'est des, comment dire, c'est un ensemble de décisions individuelles qui amènent à l'émergence de conventions qui sont. Je suis assez persuadé qu'il y a un truc comme ça qu'on pourrait mettre en évidence. Et en fait, à un moment donné, tu peux avoir un acteur dans une région qui va dire la convention partagée par tous les autres acteurs et ceux avec qui il va falloir que je négocie pour faire passer une réforme. La convention partagée, c'est il faut soutenir les métropoles et fusionner les régions, même si moi je pense que c'est stupide. J'ai intérêt à porter ce discours pour défendre mes propres intérêts, et ce faisant, je renforce la convention. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de méchant dans l'histoire, c'est une agrégation en situation d'incertitude radicale, etc., etc. Je suis assez convaincu de ça, que c'est quelque chose qu'on pourrait bien expliquer, ce mimétisme-là qui aboutit à des solutions un peu absurdes, par économie des conventions, quoi.
Alors, je suis d'accord avec toi, en fait, j'ai plutôt mis cette dernière phrase en regard du schéma qu'avait produit Abramson sur le cycle, en fait, de compte des faiseurs de mode et comment une vague se construit, essayer de dire est-ce qu'on pourrait pas, à l'image de ce qui se passe dans les modes managériels du privé, où il y a ces fameux gourous, les mass médias, les firmes de consultants et puis les écoles de commerce qui sont les producteurs et qui vont générer en fin de compte la partie offre du marché de la mode, est-ce qu'on peut pas aussi dans le cadre du management public essayer d'identifier qui sont en fin de compte ces différents intermédiaires pour essayer de voir comment réellement ça se diffuse. Et peut-être qu'un des biais, c'est qu'il y a des conventions très fortes. En fait. Là, pour le coup, je suis d'accord.
Oui, un témoignage et puis... qui viendrait peut-être compléter ce que vient de dire Olivier. Là. C'est vrai que le parallèle avec le monde du privé se fait aussi avec une espèce de mode de regards territoriaux. Le Québec a été à la mode pendant un moment. La réforme territoriale de Wallonie, on ne s'en rappelle plus, mais en 86, le nombre de communes a été divisé par 45 ou 50 avec la fusion. Juste un jour, je me suis retrouvé en 2002 à Québec, face à une dame qui s'appelait Renée Moreau, c'était pas une cousine à moi, qui était sous-ministre chargée de la préparation de la réforme publique massive du Québec. Elle avait dans son cabinet une vingtaine de personnes qui avaient été embauchées. C'était tous, sans exception, des Écossais. Si je vous dis ça, simplement, c'est qu'on a une vision parfois un peu superficielle de la réalité des choses. C'est un appel d'offres international qui avait fait venir cette cohorte de mercenaires qui étaient tous issus de grands cabinets nord-américains. J'ai rien contre, j'ai rien pour. Simplement, nous, on regarde ça 15 ans après en disant, vous avez vu au Québec la réforme de la santé, la réforme territoriale, la réforme de l'éducation. À la base de tout ça, la réflexion, donc René Moreau, elle est restée 4 ans comme sous-ministre. Hein, ce sont des hauts fonctionnaires, en fait, hein, ce ne sont pas des élus politiques. Mais, et elle a été dans deux gouvernements relativement différents. Si je dis ça, c'est qu'il y a un côté superficiel et à tous nos regards ou aux représentations qu'on peut se faire des ressorts d'un certain nombre de réformes. Donc la démarche scientifique voudrait qu'on regarde à l'aune d'un certain nombre de méthodes les hypothèses de départ. D'ailleurs, c'est la même chose pour la démarche journalistique qui demande à vérifier ses sources. Alors ça c'est une anecdote, mais qui m'envoie à ton schéma, puisque tu parlais des faiseurs de mode, vous parliez des faiseurs de mode. Ce schéma-là, finalement, en s'y appuyant de cette manière-là, est-ce que vous ne faites pas une contradiction méthodologique avec l'argument de la fin ou le slogan de la fin en disant la gestion publique devrait se penser par et pour elle-même ?
Oui, mais c'était pour mettre un point final à l'analyse en portant le regard type mode privé. C'était pas pour créer un nouveau modèle de management public qui serait calé sur ça. Ça serait une hérésie parce que ce serait une généralisation du propos qui serait pas bonne. C'était pour dire est-ce qu'on peut pas essayer de démonter tous les mécanismes de ce schéma et de voir réellement dans le contexte du management public qui agit, qui n'agit pas, et est-ce qu'on a effectivement la notion de conflits sociaux qui peut être prégnant dans l'organisation privée en termes de réforme publique, là pour le coup, on peut l'avoir vu sur la réforme des retraites par exemple. Honnêtement, pour la réforme de la loi NOTRe, on n'a pas vu des millions de gens dans la rue, quoi. Donc déjà, en fonction du type de réforme publique, ce schéma ne va pas du tout s'adapter. Et c'est pour dire, est-ce qu'on peut pas arriver à le décrire ? Mais on n'a pas été au bout de la démarche encore. Enfin, c'était une ouverture.
D'accord.
Merci. Est-ce qu'il y a d'autres prises de parole, réactions diverses, commentaires ? Merci Olivier. On va inviter Pascal à dire quelques mots de conclusion de cette belle journée.
Merci, belle journée en effet. J'ai essayé de tirer 3 ou 4 fils, donc rassurez-vous, je ne serai pas long. Premier élément d'abord, du point de vue de la Fédération de Recherche Territoire, en tant que directeur de cette structure fédérative, je suis évidemment très heureux de la qualité des propos qui ont été tenus, et je vois qu'il y a l'opportunité de faire un très bel ouvrage sur ces questions de fusion. Je pense aussi que nous avons la perspective de signer ensemble, en croisant les disciplines, des articles scientifiques qui vont pouvoir asseoir la réputation académique de la Fédération, c'est certain. Et je pense aussi que cette journée fait la démonstration que plusieurs approches scientifiques croisées offrent une puissance de feu extraordinaire, excusez-moi l'expression, mais une puissance de feu extraordinaire pour l'expertise auprès des collectivités locales, auprès des décideurs locaux, auprès des élus. Et on parlait tout à l'heure du poids des analyses un peu mécaniques des cabinets privés, des cabinets d'études privés qui ont souvent des méthodes rodées avec des solutions préétablies. Je pense que nous pourrions faire beaucoup mieux en travaillant ensemble sur un certain nombre de sujets de ce type-là, avec le partenariat établi depuis longtemps maintenant avec l'espace Manes France. Je crois qu'on pourrait faire ensemble de très belles choses. Donc pour la Fédération, je suis optimiste, je suis content parce qu'une page nouvelle s'est écrite aujourd'hui et nous allons avoir une suite vraiment très intéressante à observer. Alors premier point, vous avez vu, on n'a pas parlé des métropoles. Donc je crois qu'on a bien joué notre rôle de nous décaler par rapport aux modes et aux modèles pour montrer d'autres réalités auxquelles les économistes n'ont pas pensé. Et le fait que nous abordions cette question de la fusion avec plusieurs prismes disciplinaires, eh bien, c'est très riche et ça permet de voir autrement ce qui a été traité par l'intermédiaire des deux lois fondatrices, la loi MAPTAM et la loi NOTRe. Et je voudrais à cet égard vous citer un petit bout de texte de John Maynard Keynes. Il y a un ouvrage qui est, que je vous invite à lire. Il est très court, il est très intéressant. Il est préfacé pour la réédition qui vient de sortir. Il est préfacé par André Orléans. Il s'appelle « Lettres à nos petits-enfants ». Donc c'est un ouvrage de Keynes, et voilà ce que Keynes, donc économiste bien connu, écrit dans toutes les dernières, dans la toute dernière phrase, dans les toutes dernières phrases, pardon, de son ouvrage. Et surtout, ne surestimons pas l'importance des problèmes économiques, ne sacrifions pas à ces prétendus impératifs des soucis plus élevés et plus durables. Ce problème, donc le problème économique, devrait être l'affaire de spécialistes, tirés comme les soins dentaires. Si les économistes réussissaient à devenir, aux yeux de tous, des professionnels modestes et compétents, à égalité avec les dentistes, ce serait merveilleux. Donc je crois qu'on est arrivé aujourd'hui à remettre les économistes à leur place. Ouvrez la bouche, je vais m'occuper de vous, si pour le reste vous voyez mes collègues. Donc cette richesse des échanges, vous voyez, c'est pas nouveau. Cet ouvrage de Keynes, il date de 1930. Deuxième fil, les stratégies. Et là, je fais appel à Fernand Braudel, donc à tout seigneur, tout honneur. L'avenir ne se prévoit pas, il se prépare. Je crois que l'une des questions qui a été abordée aujourd'hui, c'est... Certes, on a un nouveau découpage régional. Certes, on a de nouvelles institutions qui se mettent en place. Certes, il y a un cadre qui est donné par les lois qui structurent ce découpage. Mais en vérité, rien n'est dit tant qu'on ne sait pas comment s'élaborent les stratégies. Le découpage, c'est un cadre. Le poisson rouge ne peut pas sortir de son bocal, mais les acteurs locaux le peuvent. Donc, il y a toutes ces questions de partenariat, de... coopération entre les différentes structures institutionnelles aux différentes échelles. Et il y a surtout, et je reviens sur la fédération, il y a surtout la capacité que doivent avoir les acteurs à élaborer des projets, à faire valoir leurs idées et à s'appuyer donc pour ça, notamment sur l'expertise scientifique. Je suis étonné chaque fois que je travaille avec des élus locaux, avec des décideurs locaux, de leur faible capacité à s'appuyer sur toute une littérature, des études, des travaux de l'INSEE qui sont très utiles pour comprendre la dynamique territoriale. Et en fait, soit par la mode, soit par les modèles, soit par l'urgence, soit par le discours purement politique, on oublie toutes ces dimensions. Et donc évidemment, ça limite beaucoup les capacités et l'originalité dans le montage des projets. Troisième élément... la grande transformation. Donc, quand on a choisi ce titre, c'était aussi pour faire un clin d'œil à un ouvrage que les gens qui s'intéressent aux sciences sociales en général, aux sciences humaines et sociales, connaissent bien. C'est un ouvrage de Karl Polanyi, qui est très connu, hein, qui a été publié en 1944, qui s'appelle « La grande transformation », et dont le message essentiel consiste à montrer comment, à partir du 19e siècle, le discours économique a saturé l'ensemble des sciences sociales et comment on a oublié, à la fois de manière pragmatique et de manière intellectuelle, comment on a oublié que l'économie, ce n'est qu'une manière parmi d'autres de faire du lien social et que donc les relations sociales, elles sont, les relations économiques, elles sont encastrées dans un ensemble de relations sociales. C'est la grande démonstration de Polanyi. Et il dit qu'il y a une grande transformation parce que d'un seul coup, le discours économique, il sature l'ensemble des discours en sciences sociales. Heureusement que de temps en temps, les économistes se réveillent et n'oublient pas les autres sciences pour travailler avec elles. Vous en avez l'illustration aujourd'hui. Mais en tout cas, cette grande transformation, elle est encore très prégnante. On l'a vu avec le dernier exposé. Le discours économique a saturé le discours autour de la justification de la fusion des régions. Et là, on a des enjeux très importants par rapport à ces questions-là, parce que il faut sortir de cette vision unilatérale. On a parlé beaucoup de diversité, d'un équilibre à trouver entre l'efficacité et l'équité. sur la politique sociale, on veut voir plus qu'une tête parce que c'est plus facile de commander quand on a un problème simplifié, mais tout le monde a essayé de montrer que on avait toute une diversité de problèmes à prendre en compte. La question des territoires vécus, je pense, est apparue assez nettement aujourd'hui, alors qu'elle est, comme on l'a vu tout à l'heure, largement absente de la réforme. Et évidemment, il ne faut pas aborder les territoires sous un seul aspect, notamment l'aspect qui sature le discours, l'aspect économique. Il faudrait, de ce point de vue, je pense, avancer ensemble au sein de la Fédération Territoire sur une histoire des idées, on vient d'échanger sur ce sujet, une histoire des idées autour des territoires. Et donc, on a prévu dans les programmes de recherche que l'on va mener dans les semaines à venir, on a prévu d'interroger des acteurs qui ont, depuis 30 ans, réalisé cette jonction entre l'analyse des territoires, l'implication auprès des acteurs, le pilotage des politiques publiques, personnellement, dans leur carrière professionnelle et dans leur carrière intellectuelle. Et ça, je crois, c'est très utile pour aussi reconstruire tout un ensemble de modes et modèles, justement, qui ont marqué la manière de faire du développement local, de faire de l'aménagement du territoire aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup à l'ensemble des contributeurs qui ont fait un travail très riche, très approfondi, très instructif, très intéressant, qui se sont investis depuis plusieurs mois parce que nous avons construit ça patiemment pour avoir un programme cohérent et surtout pour avoir une actualité éditoriale très rapide après cet événement. Voilà, et eh bien bonne soirée, merci beaucoup. Donc évidemment nous pouvons nous rafraîchir à l'étage, un pot nous est offert tout à l'heure.